Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, diffusé en direct, mercredi 7 décembre 2005 de 18h à 21h, en différé jeudi 8 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistons.
Non, on dit résistons.
Ah bah pardon, attendez, moi je suis remplaçant là.
Ah oui, mais justement, faites votre boulot.
Mais j'ai pas le texte.
Résistons.
Voilà. C'était notre divin marquis.
J'espère que vous allez essayer de résister, Serge, parce que je ne trouve pas très résistant, comme disait Arlette.
C'est un intérim de Victoria, le pauvre.
Comme disait Bastiat. Vous connaissez l'histoire, Daniel. Le juge d'instruction qui instruisait le dossier de... De Bastiat, comment elle s'appelait, Thierry? Si, mais oui, la fameuse comédienne française.
Ah, bah oui, Arletty.
Arletty, ça s'appelait Bastiat, son nom.
Oui, voilà.
Et alors, il arrive dans son cabinet, il lui dit, alors Bastiat, ça va aujourd'hui? Elle lui dit, oh, pas très résistante, monsieur le juge. Voilà,
c'est ça commence à piquer un effet. Tu vois.
Le Daniel que vous interpelliez, Daniel Raffard
de Brienne. Et puis nous avons François-Marie Algou qui est là. Je lui ai promis qu'il reviendrait, enfin que je le réinviterai, parce que je ne peux pas promettre qu'il reviendrait, étant que je ne suis pas maître de ses décisions. Mais...
Parce que vous l'aviez couché sur un lit de Procuste la dernière fois.
Oui, bien lui.
Voilà, il est dur.
On voit qu'il y a une fréquentation. C'est une soirée intellectuelle parce qu'il s'entraîne. Nous entendrons normalement.
Je me présente moi-même alors, Serge.
Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas fait.
Patrick Goffman.
Patrick Goffman en personne. Et vous avez entendu le marquis Chérigues d'Olmeta juste avant, qui remplace Victoria.
Qui essaye.
En plus barbu.
Oui.
Parce que Victoria n'est pas barbue du tout, je tiens à
dire. Non,
parce elle nous écoute.
Elle a une peau de bébé. Oui.
Elle est fatiguée, mais elle pas suffisamment pour ne pas nous entendre.
Je l'embrasse tendrement.
Et ben nous aussi, on l'embrasse toutes, parce que... Tous, parce que...
Et Goffman s'en lèche les babines.
Elle a mal à ses petits yeux. Oui, non, mais c'est vrai, elle a mal aux yeux, d'abord. Ce qui provoque des maux de tête, et etc. Enfin, voilà, quoi. Toutes les misères du monde. Donc, ce soir, je recevrai, alors vous le savez maintenant, Daniel Raffard de Brienne, dans le désordre, parce que François-Marie Algou, et puis, nous aurons au téléphone, je crois, sauf erreur de ma part, Anne Brassier, et nous attendons Jean-Pax Méfray, Ça, c'est un événement, parce que Jean-Pax Meffray, on peut pas dire quand même qu'il soit.
J'avoue que moi aussi, Jean-Pax Meffray.
Voilà.
Moi, j'ai posé l'affaire.
Je suis là pour ça.
Il a dit Jean-Pax Meffray.
J'ai rien compris. Alors, non, je suis vraiment fatigué.
Il a peur de Jean-Pax. Ouais.
Moi, c'est plutôt Chirac qui Meffray. Il paraît qu'il est pas bien du tout. Hein.
Eh bien, non. Et vous le savez très bien, Serge, puisque vous l'avez écrit dans le Libre Journal papier il y a 15 jours. Ouais. Seulement 15 jours après, différentes gazettes et différents canards le confirment. À l'Elysée, le 30 novembre, Chirac avait convié 17 parlementaires UMP pour un apéritif. Certains en sont repartis bouleversés, tel le député du Maine-et-Loire, Marc Laffineur, médecin. Anesthésiste réanimateur de son état.
Il n'était pas trop.
Voilà, mais je le souligne parce que bon, il a une certaine compétence, il a établi un diagnostic, je pense. Chirac est vraiment très changé et affaibli, a-t-il glissé le soir même à quelques collègues. Il est sourd comme un pot. Nathalie Kosciusko-Morizet a été obligée de lui répéter à l'oreille les questions des autres députés. Et pour ne rien arranger, il a donné à trois reprises du Christian à Hervé Novelli.
Ben, c'est ce que disait. Sur Europe 1, il y a un numéro le matin que je vous recommande, qui est un numéro d'imitateur.
Ah oui, de Canteloup.
Canteloup, qui est vraiment très doué. Il y a de bons imitateurs maintenant. Ah lui, oui, il y a, comment s'appelle
Gérard,
celui qui est à...
Laurent Gérard.
Laurent Gérard, puis il y a celui qui est aux deux ânes, là.
Ah, Guy Denis. Ah oui, il faut parler de lui, parce que les télévisions, les radios ne l'aiment pas beaucoup.
Il est pas politiquement correct.
Oui.
Et voilà. Donc, Canteloup fait Sarkozy. C'était très drôle parce que c'était le lendemain du jour où on avait appris que 73% des Français considéraient que Chirac était cuit, quoi. Alors on interroge Sarkozy-Canteloup, on lui dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Il dit « Écoutez, moi je suis absolument révolté qu'on fasse autant de bruit autour du fait que 73% des Français considèrent que Chirac est gâteux. C'est inadmissible qu'on puisse donner la parole à 73% des Français qui pensent que Chirac est complètement idiot. Comprenez, si c'est pas parce que 73% des Français pensent que Chirac est devenu complètement gaga qu'il faut en faire les choux gras dans les journaux, hein, 73%, etc. Et il disait d'ailleurs, l'autre jour, je l'ai vu hier ou tout à l'heure, pour lui présenter mes vœux de bon anniversaire, et il m'a dit très gentiment, mon cher Christian, parce qu'il m'appelle Christian, Sarkozy, des fois il m'appelle Frédéric, des fois il m'appelle Émile, mais là, c'était Christian. Voilà, donc effectivement, c'était pas idiot.
C'est injuste quand même, parce que ses interventions, la façon dont il a fait face à la crise dans les banlieues, étaient marquées au soin du bon sens. Rappelez-vous, silence complet pendant 15 jours après le début des émeutes, et puis au bout de 15 jours, il va au Struthof, et il lance un message qui tombait à pic. Combattez sans relâche ceux qui prône le racisme, l'intolérance. Et il continue, après un mois de réflexion, à expliquer que c'est les discriminations qui sont cause de tout.
Ouais,
cela dit, c'est la première fois depuis la mort du général de Gaulle qu'il n'est pas allé à Colombelles pour l'anniversaire de la mort. S'il peut même pas faire ce genre de déplacement, c'est grave.
Il pouvait pas, il était à Bamako.
À Austerlitz. C'était avant. Moi, je suis très content parce que j'ai un ami socialiste à qui je disais, vous allez voir, quand il va sortir du Val-de-Grâce, il va pas être frais. Mais non, regardez, ils sont maison, les socialistes. Il va très très bien, il va encore nous enquiquiner longtemps. J'avais raison, il est pas en forme.
Ils ont peur d'une présidentielle anticipée, vos amis socialistes, à mon avis.
En tout cas, à Bamako, on nous a dit Chirac se repent. Et c'est bien la preuve d'ailleurs que la formation.
Comment vous écrivez repent?
Parce que j'avais jamais entendu dire que c'était pendu. Donc personne ne nous a rien dit. Et voilà qu'il se repent maintenant. Enfin,
et bientôt il va se répandre.
Donc, il va se répandre probablement. Et, il faut quand même vous préparer, chers auditeurs de cette émission, ou chers auditeurs de cette émission, je ne sais pas, ça fait 10 minutes qu'on parle, ils sont peut-être tous partis maintenant.
Je ne crois pas. D'ailleurs, j'en ai des preuves en page 3 du Libre Journal.
Ah bon ?
Non seulement ils nous écoutent, mais ils nous entendent.
Voilà, ça c'est bien. On en parlerait tout à l'heure, mais ce que je voulais dire, c'est que. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, vous m'avez interrompu.
Pardon, chef.
Ça y est, je suis largué complètement.
Vous demandiez s'il y avait des auditeurs encore.
Oui, non, mais c'était pas ça. Je voulais leur dire que. Il faut vous préparer. Merci, Daniel. Voilà, merci. Un qui écoute au moins. Voilà, un qui écoute.
Je vais être viré et remplacé par Daniel Raffaire de Brienne.
Ouais, absolument. Je disais donc qu'il faut vous préparer des élections présidentielles, à une élection présidentielle rapidement. À mon avis, il ne va pas faire ses PPH, il ne passera pas l'hiver. On va être obligé de l'interner. Ce qui est drôle, parce que j'avais imaginé ça dans un roman que je n'ai jamais publié.
Quel dommage.
L'interner où ? Pas en prison, quand même.
À ce niveau-là, c'est... Non, en prison, il est protégé, mais...
Je crois que c'est joué, moi, je
à Maison-Blanche, non.
À la Maison-Blanche, pour la politique, c'est un rêve.
Ah, c'est le rêve. Enfin, tu sais, voilà. Chirac va finir à la Maison-Blanche. En tout cas, on a vu aujourd'hui une chose qui était très amusante. C'était Dominique Villepin et Dominique Galouzeau de Villepin et Nicolas Sarkozy qui sont arrivés bras dessus bras dessous.
Il y en avait un plus grand que l'autre.
Oui, je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs, parce que c'est pas facile. C'était Double Pâte et Patachon qui sont arrivés à la réunion de l'UMP.
C'est d'autant moins facile, une petite incise, c'est d'autant moins facile que l'un augmente les crédits pour les ZEP, zones d'éducation prioritaire, et l'autre veut déposer leur bilan.
Oui, d'accord, ils sont d'accord pour dire des conneries tous les deux. C'est le seul point sur lequel ils sont d'accord. En tout cas, ils sont arrivés bras dessus, bras dessous, et ils ont décidé de... ils ont soumis aux élus, enfin aux membres du Congrès, l'idée de faire désigner le futur candidat à la présidence de la République par les électeurs.
Ils ne sont pas d'accord là-dessus, non ?
Les adhérents, non, ils ne sont pas d'accord.
Il va falloir qu'on aille arbitrer à l'UMP. Alors, là.
Ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont dit qu'ils ne l'intronisaient pas, mais ils le... soutenait, c'est pas ça?
C'est ça. Oui. C'est ça, oui.
Ils font du pitbull mercerisé, maintenant.
C'est ça, ça sera pas
une élection, c'est une
soutien. Voilà. Ouais. Mais le langage, oui. Le langage prend une valeur, une importance considérable en ce moment en politique, parce que là, il n'est pas intronisé, il est, introduit. Comme vous dites, introduit dans la liste des possibles. On a appris que Villepin avait décidé que ce qui s'est passé au mois de novembre, c'était pas des violences ethniques, mais c'était de graves troubles urbains. Mmh. Qu'il faut quand même pas confondre. Et alors l'explication, en plus là, l'explication elle est rigolote. C'est uniquement une question de fric. Oui, je fous du monde, comme dit François Loup, c'est ça. C'est uniquement une question de fric, parce que si ce sont des émeutes, l'État sera obligé de rembourser aux assurances les frais que les assurances auront remboursés aux assurés. Puisque ça voudra dire que l'État n'a pas fait son rôle travail. Qui est de réprimer les émeutes et de les arrêter. En revanche, si ce sont de graves troubles urbains, il n'a rien à payer.
C'est QFD.
Oh, de toute façon, c'est toujours le même qui paye, puisque simplement on ajoute une étape. Ou c'est le contribuable, ou c'est l'assuré qui paye les assurances en augmentant ses primes, ou c'est le contribuable qui paye l'État en augmentant les impôts pour que l'État puisse rembourser les assurances qui n'augmenteront pas les primes des assurés. Donc de toute façon, le cocu dans l'histoire, il s'appelle Bitru.
Alors relevons quand même une certaine amélioration de la coordination au sommet de l'État, puisqu'aujourd'hui sur France Info, j'ai entendu une trentaine de fois dire que les RG assurent qu'il s'agissait d'une révolte populaire qui n'avait rien de prémédité, qui n'avait rien d'organisé. Les mêmes RG, Serge, qui nous disait il y a 15 jours que 80% des émeutiers arrêtés étaient déjà connus des services de police. Mmh. Alors il faudrait savoir.
Alors justement, toujours dans la série des précautions sémantiques, les RG ont annoncé que c'était une insurrection plus que des violences organisées. Alors moi, j'imagine le type qui arrive à l'hôpital avec la gueule au carré et qui dit, on lui dit, vous avez été victime de violences organisées. Non, pas du tout, ça n'est qu'une insurrection, vous faites pas de bile, c'est pas grave du tout. Ouais. Ça fait quand même une grosse différence dans le traitement, quoi. Hein. C'est passible de... Les médicaments sont peut-être moins chers,
je sais pas. C'est Tintin et Miloud.
Oui, Tintin et Mouloud. Voilà, et alors, mais Nicolas Sarkozy, lui, disait, alors c'est, quand même, écoutez, Nicolas Sarkozy, il est bien ministre de l'Intérieur.
Bosca. Oui.
Il est d'où, vous dites ?
De Nagui Bosca. Ah non, de l'Intérieur.
Présumé ministre de l'Intérieur, disons.
Alors, le ministre de l'Intérieur, d'où tient-il ces informations ? Probablement des renseignements généraux, puisque les renseignements généraux, c'est justement fait pour fournir des renseignements généraux
au ministre.
Eh bien, les renseignements généraux lui avaient fourni des informations, sans doute, qui lui permettaient de dire que les violences... Le 3 novembre, il avait dit que les violences de la nuit précédente n'ont rien de spontané, elles sont parfaitement organisées. Voilà. Et aujourd'hui, les RG qui disaient ça au ministre il y a un mois, enfin, il y a un mois. Oui, un mois exactement, nous disent pas du tout, ce ne sont que des violences, que des insurrections spontanées. Moi, je sais bien que tous ces gens-là nous prennent pour des imbéciles, c'est clair, on le sait depuis longtemps. Mais c'est quand même pas inintéressant de le savoir, d'en avoir la démonstration vivante. C'est-à-dire que le 3 novembre, ils disent que c'est organisé, que ça n'a rien de spontané. Le 3 décembre, ils disent que c'est spontané, que ça n'a rien d'organisé. Bon, Je voudrais savoir combien ils sont payés, combien ça gagne un flic d'Hergé aujourd'hui. Je sais pas. Vous n'avez jamais été flic d'Hergé.
Déjà, on lui donne sa tranche de jambon quand il espionne chez la charcutière. Ça, c'est.
En tout cas, il y a une chose dont on est sûr. La preuve, c'est que je le dis dans le Libre Journal, c'est que le pouvoir a été prévenu que l'émeute allait éclater et qu'il a laissé faire. Il l'a laissé faire. C'est un calcul, c'est une expérience sociétale, comme on dit aujourd'hui.
Je me dépêche de dire que vous avez des sources policières, vous aussi, que vous citez.
Tout le monde sait que je suis un provocateur fliqué.
Ça se dit.
Vous le dites pas, vous l'écrivez dans le Libre Journal sur 3 pages et vous appuyez sur des sources policières, y compris des déclarations.
Avec s'appuyer sur une source, on risque de se retrouver mouillé assez rapidement.
À moins d'avoir un joli bateau, ce qui est notre cas. Voilà, c'est la DST et l'ERG. Voilà, le directeur de la DST. Donc vous appuyez sur une interview de directeur de la DST à Valeurs Actuelles et d'autres sources encore, Charles Pellegrini
Charles Pellegrini, le commissaire Pellegrini qui vient de publier un livre intitulé « Banlieue en flammes », c'est ça ?
Oui, ouais. C'est ça, oui.
« Banlieue en flammes ».
Qui a failli le publier, plus exactement ?
Non, il l'a publié.
Ah bon.
Il est publié, le bouquin, mais au mois de juin, il est allé voir son éditeur en lui disant « Il faut sortir un bouquin qui s'appellera « Banlieue en flammes » et il faut le sortir au mois de novembre ». Alors, quiconque connaît les questions relatives à l'édition sait très bien que il faut beaucoup plus de temps que 4 mois ou 5 mois.
Un an minimum.
Pour un an pour sortir un bouquin. Et là, il a dit « Oui, enfin, c'est vrai, François-Marie. Hein. » Et là, il a dit « Non, il faut qu'il sorte au mois de novembre. » Ce qui veut dire que lui, qui est en contact avec l'Hergé, la DST, etc., parce que c'était son boulot, il savait pertinemment qu'il y aurait des troubles en novembre et qu'il fallait profiter de la vague pour surfer dessus, comme on dit quand on est un jeune homme moderne comme moi.
Troubles en novembre, Noël en décembre.
Voilà, belle formule. Je suis content de l'avoir engagé parce que.
Et troubles aussi en décembre d'ailleurs, Serge, parce que dans le même numéro du Libre Journal, nous terminons ce dossier de 3 pages sur les prochains troubles. Ouais. Parce que les RG nous annoncent les troubles du mois dernier et nous, on cite aussi les RG pour. Alors, ils nous disent pas si. Ils annoncent une récidive pour les fêtes, mais ils nous disent pas si ce sera une insurrection populaire. Voilà, spontanée ou pas spontanée, ils précisent pas. Mais enfin, ça devrait chauffer pour les fêtes et probablement pour le printemps. Merci, monsieur le marquis. Un message pour moi, mon Dieu.
Non, c'est un auditeur qui dit « J'apprends avec une infinie tristesse les problèmes de santé de M. Chirac. » Je pense que c'est Sarkozy qui nous écrit. « Et de M. Bouteflika, ce qui risque de retarder... » Oui, ça c'est embêtant, parce que c'est vrai. « Ça risque de retarder le traité d'amitié franco-algérien. » Et vous imaginez la conversation entre Sarkozy et Bouteflika sur le traité franco-algérien ?
Écoutez, Serge, il y a
on dirait les deux petits vieux de... Vous vous souvenez des deux petits vieux du Muppet Show ?
Oui.
Voilà. Bien, oui. C'est ça, la conversation entre Chirac et Bouteflika.
Écoutez, Serge, il y a certainement encore des auditeurs, en particulier parmi les nouveaux, qui nous prennent pour des extrémistes quand on parle de Bouteflika, des rapports avec Algérie. Mais voyez, j'ai le canard enchaîné sous les yeux, là. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre que nous ? L'Algérie, c'est un dessin de Quirot. L'Algérie récuse le rôle positif de la colonisation française. Et on voit Bouteflika qui répond « Ah, au point de vue médical, à la rigueur. » Puisque, donc, la semaine dernière, on racontait qu'il insultait la France le 25 novembre et qu'il s'y faisait hospitaliser le 30 novembre. C'est le canard enchaîné qui nous arrache nos plaisanteries de la bouche. Alors, est-ce qu'on est vraiment des excités, des extrémistes, ou est-ce que nous représentons le bon sens ?
Au fait, vous savez si Charlie Hebdo a été poursuivi pour le dessin qu'on publiait la dernière fois que lui publiait, qu'on avait reproduit illégalement d'ailleurs, au mépris du respect des droits d'auteur.
Eh ben non.
Le dessin qui montre
des rats
qui s'enfuient comme ça d'un incendie. Et,
commentaire et de Charlie Hebdo. Une communauté qui s'en va, c'est un peu de mixité sociale en moins. À quelle communauté faisait-il exactement allusion ? On ne le sait pas. Inutile de vous dire que si que ça nous aurait...
Ah oui,
c'est ce que je crains.
C'est ce que je crains aussi.
Ça nous aurait coûté très cher, ce genre
que c'est pas ça,
de plaisanterie.
Comment la LICRA et le MRAP auraient poursuivi...
Bien sûr. Alors, puisqu'on est dans les précisions, un auditeur s'empresse de vous rappeler, Serge de Bekech, que Arletty s'appelait Léonie Batia et non pas Bastien. Vous avez dit Batia, mais effectivement entre le dentier, le micro et le reste, on a compris Bastien.
J'ai pas de dentier.
Et vous avez un micro.
J'ai pas de dents non plus, mais j'ai pas de dentier. J'ai pas les moyens de me payer un dentier, on verra ça plus tard, quand j'aurai gagné au loto. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Ah oui, alors voilà, je voudrais vous lire un message, parce que c'est quand même assez intéressant. Serge de Beckett vieillit vraiment mal. Oui, c'est vrai, ça, si vous savez, mon pauvre monsieur. Je sais qu'il a beaucoup souffert. Je fais partie du peuple qui a beaucoup souffert, un petit peuple qui a beaucoup souffert. Et qu'il a beaucoup souffert et payé le prix de ses convictions, mais pas plus que d'autres et pas forcément plus que moi. Bon, enfin bref. À un auditeur qui lui demandait s'il soutenait la révolution bleue de Claude Reichmann, il a dit en substance aujourd'hui, non, c'est libéral et puis on ne sait pas quelle couleur de bleu, pourquoi pas l'orange comme en Ukraine, bref, c'est ridicule. Or, trois revendications du port de l'écharpe sont parfaitement conformes à ses propres aspirations. Serions-nous en face du nouveau NIH, Not Invented Here? C'est-à-dire pas inventé dans cette boutique, qui nous vaut tant de déboires pour les médicaments nouveaux. Vous voyez pourquoi mes enfants, qui partagent pourtant 195% des idées de Radio Courtoisie, en viennent à dire qu'il ne s'agit que de vieux cons aigris. Merci, jeune homme. Mais bleu ça vous arrivera, vous savez. Alors ça...
Bleu ou gris, il faudrait savoir. Bleu ou gris. Bleu et gris.
Mais la jeunesse est une maladie dont on se guérit assez rapidement. Puisque vous le connaissez personnellement, me dit-il, oui, je me connais quand même un petit peu, je vous laisse le soin d'essayer de le faire revenir à de meilleurs sentiments pour une fois qu'une action positive est relativement simple et possible. Et puis c'est festif de se parler ou de se saluer lorsqu'on sait qu'on partage les mêmes idées. Si encore il avait l'excuse d'avoir peur d'afficher ses opinions et de se faire casser la gueule par les voyous, voici à titre de rappel les trois revendications des Bleus. Non à la chienlit, non au trop plein d'impôts et de charges, non aux politiciens incapables. Alors je vais quand même répondre assez brièvement, c'est que... Pourquoi j'ai dit que cette histoire d'écharpe bleue, c'est une connerie? Ben parce que c'est une connerie, tout simplement. Voilà, je le pense réellement. Parce qu'on n'a jamais résolu aucun problème en portant une pièce de vêtement. Jamais, ça n'existe pas.
Je peux apporter une précision.
Vas-y.
Marquis. Voilà, c'est la révolution de temps marche.
Ah non, mais quand tu es à ma gauche, je tutoie même Victoria. Quand
alors, bon, très bien. Michou a entendu l'émission. Il m'a appelé, il m'a dit, tu comprends l'histoire de l'écharpe bleue, ça m'emmerde. Parce que si tout le monde a une écharpe bleue, je te rappelle que je n'ai que 91 place dans ma boîte et que j'ai pas le droit de mettre une chaise de plus.
En plus, il ne peut plus sortir, il va passer pour un facho.
Mais pour nous résumer, Serge, vous êtes pour la chienlit, si je comprends bien.
Non, ce que je veux dire, c'est que s'il y a...
On dit quoi, du bleu.
Moi, je pense, par exemple, qu'il y aurait une solution pour régler les problèmes, ce serait de dire eh bien, je ne vais pas porter une écharpe bleue, je vais porter en bandoulière
bleu d'Auvergne.
Ma feuille d'impôt non comment dirais-je, non acquittée.
Non payée, oui.
Voilà. Ça, c'est utile, ça.
Moi aussi, j'ai une idée.
Au lieu de descendre avec une écharpe autour du cou, descendre avec un fusil en bandoulière.
Voilà.
J'aime mieux.
Hein? J'ai une idée aussi.
Vous imaginez ça?
Si vous êtes contre la chienlit, marchez sur les mains à partir de maintenant. Oui, tous ceux qui marchent sur leurs pieds sont pour la chienlit.
Non, écoutez, on va pas faire des révolutions avec, pendant des années, on s'est baladé, on se balade encore avec des fleurs de lys à la boutonnière. J'ai pas remarqué que ça avait fait revenir le roi. François le Marie Elgou, vous avez remarqué, vous?
Non.
Non, et là.
Les écharpes bleues, surtout. Hein?
Et il a une croix. Lui,
et on se balade tous avec des crucifix autour du cou, et on n'est pas entendu dire qu'on était encore dans une société catholique. Hein? Bon, alors il faut quand même être sérieux. D'abord, je trouve que voilà, c'est ça le fond du problème, c'est que ça sert absolument à rien. Et deuxièmement, que ça ne me plaît pas parce que c'est exactement le genre d'idée que les services américains font circuler pour agiter les populations. C'est pour ça que je faisais allusion à l'Ukraine. Tout le monde sait que les révolutions oranges, que ce soit en Ukraine, en Azerbaïdjan, en Popoïdjan, au Boukabidjan, sont des trucs qui ont été montés de toutes pièces par les services spéciaux américains pour foutre le bordel dans ces pays.
Ça n'a apporté que des pépins, cette orange.
Évidemment, l'orange n'apporte que des pépins. Donc, en plus en France qu'ailleurs, c'est tout. Et puis, alors, s'il faut porter une écharpe bleue pour dire qu'on est qu'on est contre la chienlit, contre les impôts et les charges et contre les politiciens incapables, c'est pas la peine. Il faut mieux se promener tout nu. Au moins, une fois de temps en temps, dans un spectacle agréable.
Et tant que l'on croit qu'on peut s'en sortir par la démocratie, c'est pas la peine. L'écharpe bleue, c'est ça.
Voilà.
L'écharpe bleue, c'est la démocratie. Surtout, c'est que c'est un prétexte à ne rien faire.
Oui, c'est ça, c'est de la bonne conscience.
Voilà, la bonne conscience. Mieux vaut qu'ils s'abonnent au Libre Journal, par exemple.
Cela dit, c'est pas parce que je suis contre l'écharpe bleue que je n'ai pas pour M. Claude Reichmann la plus haute estime. Je tiens à le préciser. C'est un garçon qui a été candidat aux élections... Enfin, candidat à la candidature présidentielle. Et s'il faut avoir absolument un président de la République, tant qu'à faire, je préfère que ce soit Claude Reichmann que Chirac. Si on me demande vraiment mon avis, je sais bien qui je choisirais, et je suis obligé de dire, et qu'à mon grand regret, ça serait pas Claude Reichmann, mais parce que j'ai des obligations morales vis-à-vis de quelqu'un que j'ai toujours soutenu, et que je continuerai à soutenir...
Mordicus,
je ne dis pas son nom pour ne pas avoir l'air de partisan, parce que je sais que si je dis que c'est Jean-Marie Le Pen, on va encore me faire des reproches et tout, donc je ne dis rien. Mais, voilà. Donc je pense que j'ai donné une réponse. à propos du bleu. Moi, j'ai une écharpe rouge en plus, puis j'ai pas envie de changer, le bleu me va mal autant.
Le bleu, c'est la couleur des loges de masse.
Ah, mais c'est vrai, c'est les loges bleues.
Les loges bleues.
Alors, ah, ben c'est ça la clé. Voilà. J'ai tout compris, c'est encore l'histoire. J'ai perdu mon papier, où j'avais une... Non, il est là, voilà. Non, c'est pas là.
Non, ça c'est...
Alors, pendant que vous le cherchez, Serge, derrière le radiateur et sous votre chaise, si je donnais quelques nouvelles du Libre Journal...
Ah bah faites donc ça.
Qu'en pensez-vous ? Où en sont les finances du Libre Journal ? Non, blague à part, il s'agit de rendre compte aux auditeurs, aux auditrices de Radio Courtoisie qui nous ont non seulement écoutés, mais entendus. Lorsqu'il y a 3 semaines, si je ne m'abuse, vous avez, Serge, lancé un appel disant que nous nous développions trop lentement pour échapper à la marée galopante, au raz-de-marée des factures, des augmentations.
Alors, pardonnez-moi de vous couper, de vous interrompre une seconde, mais...
Surtout quand je vous cite.
Oui, mais en plus, voilà, une bonne application de l'exemple que je donnais à l'instant. Imaginez qu'au lieu de dire aux auditeurs et amis du Libre Journal papier, envoyez-nous des sous pour franchir le cap, j'ai dit, portez une écharpe bleue, ou verte, ou orange, ou jaune. Ou
blanche, disons.
Blanche. Portez une écharpe bleue. Quel aurait été l'avantage pour le Libre Journal ? Alors, on aurait vu arriver Daniel Raffard de Brienne avec une magnifique écharpe blanche, alors que l'autre jour, je l'ai vu arriver avec un chèque que je trouve beaucoup plus beau que toutes les écharpes du monde.
Merci, Daniel.
Je tiens à le remercier.
Quand le chèque est en blanc, c'est encore mieux.
Et tant qu'il n'est pas en bois, tout va bien.
Voilà. Donc on peut remercier de très nombreux auditeurs et auditrice de Radio Courtoisie, puisque donc vous avez expliqué qu'on était en train de se faire rattraper, parce que contrairement à certains journaux, à certains quotidiens qui ont perdu 10% de lecteurs cette année, ou 7%, et qui ont des pertes mensuelles qui nous feraient vivre confortablement nous pendant 10 ans, eh bien nous développons. Mais nous nous développons moins vite donc que ce raz-de-marée d'augmentation de tarifs d'impression, tarifs de papier, location, de bail, etc. Alors vous avez à donner des chiffres précis. 30 000 euros nous étaient nécessaires. Donc, Daniel de Becketch signe dans le numéro 365 du Libre Journal qui est sorti des presses aujourd'hui, un éditorial où elle révèle, elle aussi avec grande précision, que 18 000 euros sur les 30 000 qu'il nous fallait nous sont déjà parvenus sous forme d'abonnement, sous forme d'abonnement cadeau pour des tiers à l'approche des fêtes et sous forme de dons et d'aide. Alors, moi, je voudrais dire simplement que l'effort, je crois que Daniel dit la même chose d'ailleurs, alors je me fatigue pas trop la tête, l'effort doit être poursuivi. Je m'adresse à nouveau à ceux qui seraient tentés d'avoir peur, avec une certaine naïveté, je crois, de leurs facteurs ou de leurs concierges qui sont, si ça se trouve, de leur bord, à ceux qui nous reprochent d'être indépendants. On a perdu des lecteurs, des abonnés, des deux camps qui se sont affrontés en 98. Je les invite à revenir vers nous en comprenant que nous avons été victimes à l'époque de notre indépendance et que cette indépendance, elle est à leur service, à eux personnellement. Elle nous permet de leur donner des informations qui ne sont nulle part ailleurs. Cette indépendance, elle est également au service du mouvement national, dans toutes ses composantes, les grosses et les petites. Il ne faut donc pas nous laisser crever sous cette avalanche de factures. Il faut commencer papier et crayon, s'il vous plaît, chers auditeurs, auditrices, prenez de quoi noter. Il faut commencer par commander en spécimen ce numéro 365. On n'a pas des révélations, des scoops, comme on dit, des exclusivités dans tous les numéros, mais là, c'est une avalanche. Je regarde la une, simplement. Révélation, les émeutes raciales étaient prévues, on vient d'en parler. Révélation, la France est en faillite, votre épargne est menacée. On explique pourquoi une situation à l'Argentine ferait que bientôt, on pourrait vous dire, monsieur, vous sortez 10 euros par jour de votre épargne, de toute une vie et pas plus. Révélation, les folles nuits du gourou de la discrimination positive, monsieur Descoings, dont vous avez certainement entendu parler ces derniers jours. Révélation, une double page sur l'accident de Lady Di, qui pourrait bien être un assassinat pour raison d'État. Nous publions en particulier une lettre de Lady Di en personne qui accuse, on me prépare un accident de voiture. À l'imprimerie, l'autre jour, on avait un confrère d'un autre journal, que je ne nommerai pas pour la bonne raison que je ne l'ai pas identifié, mais enfin, il y avait un confrère qui était là et qui disait « Oh là là, vous êtes gonflé, le Paris Match n'a pas osé sortir ça, vous allez avoir des histoires, enfin, le cirque habituel, on aura peut-être des histoires. Pour l'instant, on informe nos lecteurs comme, bon, bah, Paris Match et les autres ne le font pas. »
En tout cas, s'ils essayent de me tuer dans un accident de Mercedes 600, ils vont avoir du temps, hein. Il va leur falloir un certain temps.
Un article passif passionnant, beaucoup d'éléments troublants sur cette affaire, sur cet accident ou prétendu accident, double page avec des photos, des documents, la lettre de Lady Di qui annonce l'accident elle-même. Donc c'est dans le numéro 365 du Libre Journal. Il en coûte, pour l'avoir en spécimen, donc comme d'habitude, un carnet de timbre ou 5 €. Pour s'abonner un an ou pour abonner un ami, quel merveilleux cadeau. Cet ami pensera à vous 3 fois par mois, je veux dire, pendant un an. Il en coûte 110 €, toujours à la même adresse. SDB, 4 places France List, 75 010, Paris. Pour un examen gratuit, le site internet francecourtoise.info.
Tiens, oui, une auditrice nous fait remarquer une chose très vraie. N'est-ce pas Jean-Pierre Elkabbach qui porte toujours une écharpe bleue? Je n'ai guère envie d'être avec lui. Mais madame, on ne vous demande pas d'être avec lui, on vous demande de porter une écharpe de la même couleur, c'est quand même moins grave. Mais enfin, on vous demande, Claude Reichmann vous demande, moi je ne me permettrai pas de demander à qui que ce soit de changer ses habitudes vestimentaires. Quoi d'autre? Encore des messages.
Ça sont les écharpes, on arrête.
Dans le 20e, j'ai croisé des écharpes bleues, mais j'ai aussi vu du regard ironique des petits lus, ce qui prouverait qu'ils écoutent Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est, le petit lus?
Ah, c'est craquant sous la dent.
Ah, oui. C'est bien. Bien, il y a une... Vous avez entendu parler de l'histoire Laurent Laforgue? Laurent Laforgue, c'est cet universitaire de très très haut niveau qui avait été appelé par Chirac, d'ailleurs... comme membre du Haut Conseil de l'Éducation, où il était censé donner son avis sur le naufrage de l'éducation nationale, enfin sur la situation de l'éducation nationale. Et alors, il a donc fait ce qu'on lui demandait, il a donné son avis, il a envoyé une lettre pour expliquer les raisons, lui, pensait-il, pour lesquelles l'éducation nationale était dans une telle situation, et il a envoyé une lettre assez à cheval disant ça allait très très mal, enfin, et il a été immédiatement viré par Bruno Racine, président du Haut Conseil de l'Éducation, parce que Bruno Racine avait dit l'enjeu est considérable puisqu'en dépit des progrès remarquables accomplis au cours des dernières décennies par notre système éducatif, ils n'ont vraiment peur de rien, celui-ci ne parvient pas à résorber les poche d'échecs importantes, ni à accroître l'égalité des chances. C'est leur obsession, c'est l'égalité des chances. Moi, je voudrais savoir comment ils vont régler le problème de l'égalité des chances quand il y a un cul-de-chat qui va se présenter au concours de saut de haie olympique. Parce qu'il faudra bien lui donner l'égalité des chances avec les coureurs normaux. Enfin, normaux, qui ont des jambes.
Des ressorts.
Hein? Comment?
On lui met des ressorts.
Ah ben voilà, c'est ça. Non, on coupe les pattes. Parce que si on lui donnait des ressorts,
mais non,
Le truc, c'est qu'on va couper les pattes des gens qui ont des jambes, qui en ont. Et alors, Laforgue avait répondu, je ne vois pas quel progrès remarquable notre système éducatif a accompli dans les dernières décennies. Et pour ma part, je parlerai plutôt de résorption des poches de succès, ce qui est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, effectivement, pour l'égalité, comme on peut pas empêcher les imbéciles d'être des imbéciles, il y a un moyen assez simple, c'est d'empêcher les gens intelligents de le montrer qu'ils le sont. Voilà.
Quand j'étais jeune, Serge, j'entrejette une petite anecdote. J'étais jeune, trotskiste et sportif, on se baladait avec ma bande qui était le noyau du service d'ordre de l'OCI. On se baladait sans écharpe, à vélo souvent. Et alors tout le monde râlait parce que le chef de la bande qui était prof de gym et moi, on avait des vélos de course impeccables avec de l'huile dans la chaîne, avec des changements de vitesse qui étaient bien réglés, etc., etc. Et on leur mettait et on les larguait au bout de 100 mètres. Et ils étaient là gueulés. Ah oh, mais forcément vous avez des vélos tout campagnolo comme ça, Peugeot. Et alors, nous, on leur disait... Et alors, on savait pas qu'on était politiquement incorrect parce que c'était il y a 30 ans et qu'on était des bons trotskistes. On était sûrs d'être politiquement corrects, de notre façon. Et on leur disait, alors quoi, les gars? Il faut qu'on file des coups de marteau sur nos vélos pour qu'ils soient aussi dégueulasses que les vôtres.
Cube Reynolds, tout Campagnolo, Selbrooks. Le secret du bonheur à vélo. La dimension. Alors oui, Laforgue indiquait dans ses motifs quelques extraits de directives officielles données aux enseignants. La dimension locutoire et la dimension illocutoire.
Ah oui, c'est merveilleux.
La dimension perlocutoire. Il est très important d'amener l'élève à prendre conscience de cette triple dimension des actes de parole, en particulier dans une optique de formation du citoyen. Qu'est-ce que vous pensez de ça, François? Il dort déjà.
Il va foutre le feu à votre bagnole si vous continuez.
Je crois qu'il... Là, moi, la deuxième fois, j'étais déjà moitié endormi. Ou alors en classe de sixième.
Est-ce qu'ils ne font pas des cours de français?
Si, c'est ça, c'est des cours.
Ah bon?
Enfin, de français, de français. L'objectif principal, écoutez ça, ça va vous plaire. Ça va plaire surtout à Patrick, qui est quand même un des meilleurs correcteurs typographiques français.
Merci, patron.
L'objectif principal n'est pas de trouver la bonne orthographe. L'enseignement dans le cours du débat ne tranchera jamais en faveur de telle ou telle graphie. L'élève découvre qu'il y a d'autres possibilités d'erreur que la sienne. L'orthographe devient matière à discussion. Ce n'est plus une fatalité. D'où la fameuse phrase, les poules avaient foutu le camp, des cons avaient ouvert la porte.
Je sors mon revolver et je tire d'ailleurs sur cet auditeur qui nous écrit, c'est insupportable d'entendre Patrick Goffman qui n'a pas une voix radiophonique sans parler de c'est moi je.
Ah, oui.
Pan, pan.
Ouais, ça. Bien au-dessus de mon état de mathématicien, donc je me disais, pourquoi est-ce qu'ils ont viré ce Laforgue? Il a dit, mais on lui demande son avis, il le donne et il le vire. Mais vous allez avoir la clé, puis vous allez comprendre tout de suite. Laurent Laforgue, il a dit, bien au-dessus de mon état de mathématicien, de mon intérêt passionné pour la littérature ou de mon amour pour la France, déjà mal barré, et sa langue, virgule, je place ma foi dans le Christ et ma fidélité confiante à l'Église catholique.
Vous comptez?
Il est mort. Il est suicide. Il ne pouvait pas rester plus de deux heures, quoi. Voilà. Et donc, je sais pas, on va peut-être... Je crois qu'il y a une pétition qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare pour venir, pour apporter un soutien, ne serait-ce qu'un soutien moral à Laurent Laforgue dans cette affaire. Mais je crois qu'il faut surtout garder en mémoire la stupidité crasseuse et la lâcheté formidable des gens qui l'ont foutu à la porte. Chirac, qui le fait nommer au Conseil de l'Éducation, et qui bouge pas. Il faut dire qu'avec ce Conseil, évidemment...
Il peut plus bouger.
Voilà. Bien. Vous avez sans doute participé. Vous avez donné de l'argent au SIDA, au Téléthon?
Non, ils sont plantés, je crois. Hein.
Je sais pas.
D'ailleurs, la Cour des comptes a encore allumé une autre ONG aujourd'hui.
C'est ce dont j'allais parler. Parce que, d'une part, il faut savoir que le Téléthon, on en a déjà parlé ici, je fais des papiers dans le Libre Journal, c'est pas du tout pour trouver des médicaments, c'est pour trouver des moyens d'identifier les troubles. Avant la naissance, ce qui permet de procéder à un avortement, ce qu'on appelle thérapeutique. Donc, vous financez l'avortement. Et puis, alors je dis pas du tout que c'est le cas des associations qui touchent au Téléthon, mais ça tombe assez mal que le lendemain ou le surlendemain du jour où on organise le Téléthon, la Cour des comptes publie un pré-rapport sur la gestion de l'association France Alzheimer. Maintenant, on connaît le prénom d'Alzheimer, mais c'est France.
Ça tombe moins mal que si c'était la veille, Serge, n'est-ce pas?
C'est vrai. Et alors, ce rapport relèverait, par exemple, sur cette période, un sous-emploi des ressources. Alors, sous-emploi des ressources, ça veut dire, donnez-nous votre fric, merci, et on le met de côté. Voilà.
Oui, mais
vous en faites quoi? Bah, rien.
Ça veut aussi dire frais de secrétariat.
Ah, bah oui, c'est le téléphone.
Hôtellerie, automobile. On a publié une double page récemment dans le Libre Journal.
C'est bien la preuve que le président de la Cour des comptes actuel a toujours été un fouteur de pagaille.
Oh, vous êtes bien élevé, vous. Voilà, alors je regarde s'il y a d'autres... Ah non, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup.
Je préfère Télé Sardine.
C'est quand même l'histoire extraordinaire des acquittés d'Outreau. Alors voilà des gens qu'on a foutus en tôle, qu'on a accusés à tort, etc., etc., par un juge d'instruction qui, visiblement, n'était pas un virtuose dans sa profession.
C'est clair.
Bon, mais alors, depuis qu'ils ont été acquittés...
Des stars.
Ça n'arrête plus. Tout le monde fait repentance. Chirac en profite pour se repentre encore une fois. Ils ont été reçus par le Premier ministre, lequel a promis de venir chez eux prochainement. Tu parles d'un cadeau.
Il a pleuré.
Par le ministre de la Justice, pour lequel la culture du doute doit devenir le fondement de l'institution judiciaire. C'est superbe. On croit rêver.
Et Sarkozy? Rien.
Sarkozy a rien dit. Sarkozy, il a dit, je veux bien nettoyer vos immeubles au Karcher, mais rien de plus. Et Chirac leur a écrit.
Chacun personnellement. Et on croit que la France va mal et on s'affole pour 2000 milliards de dettes publiques, ouais. Alors que le président de la République peut s'amuser à écrire 11 lettres à 11 pecnos qu'on subit la xème erreur judiciaire.
Il a rajouté quelques mots à la main.
Oh, mon Dieu.
Qu'est-ce qui ne porte le plus?
Il a rien de mieux à faire, c'est formidable.
Qu'est-ce qu'on attend pour leur foutre la Légion d'honneur à ces
gens? Mais ça va venir.
C'est vrai.
Je pense, oui, c'est sûr de vrai.
Voilà. Et alors, dernière chose à laquelle je voudrais faire allusion, peut-être la dernière, je crois qu'on est un peu en retard, oui, c'est le fait que on a... C'est quand même formidable, parce que depuis quelque temps, on nous dit... Il y a des étudiants qui viennent en France, des étudiants chinois qui viennent en France pour faire des stages dans les entreprises et qui font de l'espionnage économique. Vous avez tous entendu ça. Oui. On a même arrêté une petite étudiante chinoise dont on avait remarqué qu'elle avait des chaussures avec des semelles spéciales qui aspiraient les particules métalliques dans l'usine où elle travaillait parce qu'on utilisait un métal tout à fait, un alliage tout à fait particulier. Bon. Alors donc, grand branle-bas de combat, des papiers dans toute la presse pour expliquer « Méfiez-vous des Shintok qui nous font de l'espionnage, ils nous volent nos secrets de fabrication et tout. » Là-dessus, les Shintok disent « Non, on va acheter des avions français. » Et ils viennent, ils achètent 180
Airbus.
Airbus. Et qu'est-ce qu'on fait? Ou non, pas 180? Enfin, des Airbus à 380, je sais pas combien ils en achètent. En tout cas, un paquet.
150.
Et alors, on leur dit « Bah écoutez, on vous les vend, mais en plus détachés, et puis vous allez les monter chez vous. On va vous donner tous les bouquins techniques, tout le matériel qu'il faut. » Alors, ils n'ont même pas besoin d'envoyer des filles avec des semelles aspirantes. Hein.
C'est ce qu'on appelle, quand on est poli, monsieur de Bekesh, un transfert de technologie.
Ça s'appelle un transfert de technologie. Ouais. Mais dites donc, on ne pourrait pas leur transférer deux ou trois hommes politiques
Ah, il y a quelque chose à creuser.
Hein. On a un auditeur qui nous a envoyé un message en disant qu'il avait entendu une horrible condition au contrat Airbus, justement, c'est qu'il fallait construire une usine en Chine. C'est horrible comme condition, oui.
C'est ce qu'on vient de dire, hein. Ils peuvent pas monter les avions.
C'est toujours une usine qu'on construira pas en France. Vous avez vu le dessin, je crois, je sais plus dans quoi c'était, je crois que c'est encore Charlie Hebdo, après les émeutes de banlieue. Hein, on va leur fournir du travail, dit un homme politique, et il y a un beurre qui dit « Ah, les salauds, ils se vengent !» Voilà, une cinquantaine de viticulteurs ont fait le siège du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, dans le centre de Bordeaux, pour protester contre la chute des prix du vin. Ben, les gens ne boivent pas assez. Qu'est-ce qu'on
Restons dans le midi un instant.
Moi, je me sens pas
coupable. Non, moi non plus. Faisons ce que nous pouvons. Hein.
On peut pas à nous trois, on peut pas quand même.
Sauver le vignoble français.
François-Marie Algou ne boit pas.
Moi, je bois de la bière.
Ah bon?
Du vin de messe,
alors. Boit de la bière.
Restons dans le midi et ne quittons pas l'actualité sans signaler que monsieur Georges Frêche, président socialiste du conseil régional Languedoc-Roussillon, a chanté le 2 décembre à pleine gorge de la tribune du conseil régional le chant des Africains. Repris en chœur par le Front National, imaginez les cris d'Orfraie dans la bonne presse.
On va nous expliquer qu'il était bourré, non?
Oh, pas du tout.
Non. Justement, ça, c'est intéressant.
Le procureur de la République de Paris a requis mardi un non-lieu à l'écart d'Alain Gomez, ancien PDG de Thomson CFTF, et de 8 autres prévenus jugés devant le tribunal correctionnel de Paris pour une tentative de déstabilisation. Voilà, c'est bien d'avoir des amis.
Alors, beaucoup de messages d'engueulade nous arrivent, n'est-ce pas?
C'est très drôle.
Voilà. Alors, je signale tout de suite, avant qu'on oublie, que pour engueuler Serge de Bekesh et moi-même, d'ailleurs, et peut-être le Marquis, face à face, comme aime à faire nos courageux auditeurs et tristes, donc on a deux rendez-vous samedi. Oui. À la librairie France Livre samedi après-midi, donc Serge signera son livre Le Dictionnaire de la Colère, librairie France Livre 6 rue du Petit Pont Paris 5e. Alors comme le Marquis lui-même, qui est un brillant cerveau, s'est égaré la première fois qu'il a essayé d'y aller, vous me l'avez avoué hier après 3 verres, c'est le métro RER Saint-Michel, sortie 3, Notre-Dame, Petit Pont. Alors c'est encore plus compliqué pour aller à Villepreux le lendemain dimanche, après-midi, Grand Maison Villepreux, 20 km à l'ouest de Paris, donc c'est la fête, la 14e fête du livre de Renaissance catholique. Il y a 100 auteurs engueulés, 5000 titres à acheter, 1000 livres pour la jeunesse, et il y a des navettes à partir des gares depuis Versailles, depuis Versailles.
Non, pas Versailles, il n'y a
pas de navette de Versailles.
Non, il faut absolument préciser à tous les auditeurs, on m'a demandé spécialement de le faire, qu'il n'y aura pas de navette à Versailles. Alors s'il vous plaît, ne descendez pas à Versailles parce que vous seriez gros gens comme de...
Alors, il faut y aller en voiture. 500 places de parking depuis Paris, Porte de Saint-Cloud, autoroute A13. Depuis Versailles, D10, direction Saint-Cyr-l'École. En train, SNCF Saint-Lazare, Saint-Nom-la-Bretèche. Ah, là, il y a un service de car de Saint-Nom-la-Bretèche, n'est-ce pas, Serge, hein? SNCF Montparnasse, Villepreux-les-Clés, service gratuit de car, là aussi. C'est donc dimanche 11 décembre à Villepreux.
Il y a un message qu'il faut quand même lire, c'est un auditeur qui, à propos de, des choses locutoires, perlocutoires, illocutoires et tout, il dit, vous avez oublié les dimensions cocutoires, cucutoires et trouducutoires. C'est la 5e République en action. Voilà.
Bon, c'est peut-être pas très distingué. Disait celui tout. Qui nous félicite quand même, oui.
Que pensez-vous ? Ah non, il y a aussi une très jolie histoire. J'ai pas vu ça, le Figaro, mais une auditrice oui. nous fait remarquer que dans le Figaro, d'aujourd'hui, il y a une information. Écoutez, je vous dis vraiment, je vous assure qu'on est dans un monde de fous, quoi, c'est tout. Je sais pas comment le dire, en quelle langue, mais voilà. Donc il y a l'histoire d'un charcutier qui vient d'être condamné au titre de la discrimination, parce qu'il a refusé d'embaucher des Noirs et des Arabes, parce que ces Arabes et ces Noirs refusaient de travailler le porc. Ah, je veux bien travailler dans ta charcuterie, mais je touche pas le cochon. Bon, alors tu vas faire quoi ? Ah, je touche pas le cochon, tu passes le balai. Non, le balai, il va toucher le cochon.
Je répète que nous passons, nous, pour des excités, des extrémistes, justement parce que nous représentons le bon sens dans ce monde de cinglés.
C'est ça.
N'oubliez pas ce message.
Voilà. Celui-là. Merci à toute l'équipe pour vos émissions. Malgré la chienlit, vos rires nous redonnent espoir. Merci, monsieur.
Pourtant, ces rires continuels ne conviennent pas à la situation.
À la gravité de la situation. C'est tout ?
Oui, pour l'instant.
Bon,
oui.
C'est bien. Alors, c'est à peu près... Voilà, on va finir comme ça. Non, il faut quand même peut-être commencer l'émission, maintenant. Et vous n'êtes pas pressé, Daniel ? Vous
restez avec nous. Pas tellement, moins pressé qu'on a mis Elgou.
Alors, je vais me tourner vers François-Marie Elgou, à qui j'avais promis de donner la parole. Puis là, on va peut-être un peu passer à des choses sérieuses, parce qu'on va parler d'un... On peut blaguer, mais enfin, on aime bien de temps en temps rendre hommage à nos grands maîtres. Je sais pas, est-ce qu'il aurait aimé ce genre de divagation locutoire, perlocutoire ?
Il n'en avait pas le temps.
Non, il n'avait pas le temps.
De qui parlez-vous ?
Maurras, bien sûr. De qui voulez-vous qu'on parle ? Avec François-Marie Elgou, on peut parler de Maurras, et puis de plein d'autres choses, mais dans l'émission, on parle essentiellement de Maurras. Et... Donc vous avez publié, là, coup sur coup, deux très très beaux livres sur le plan de la réalisation éditoriale, Actualité et présence de Charles Maurras, qui est le tome 1, et le tome 2, c'est...
C'est l'Altissime.
L'Altissime, voilà.
Maurras au service de la France et de l'Église.
Et alors, la question que j'avais commencé à vous poser, mais je ne vous ai pas laissé le temps d'y répondre la dernière fois, et je vous présente de nouveau mes excuses pour ça, c'était la question de l'actualité de Maurras, parce que c'est vrai qu'il y a maintenant 50 ans qu'il est plus de 50 ans qu'il est mort, 53 ans, et il s'est passé tellement de choses énormes, phénoménales, inattendues, imprévisibles, dans ce demi-siècle, qu'on finit par se demander si Charles Maurras n'était pas un personnage du Moyen-Âge. Donc, est-ce qu'il aurait même pu imaginer, est-ce qu'il a imaginé, d'après vous, qui avez lu son œuvre dans toutes ses dimensions, est-ce qu'il a eu le pressentiment de ce qui allait arriver, et de la profondeur, de la gravité de l'effondrement et de la profondeur de la dégringolade?
Je le crois, parce que il a pensé que la démocratie amenait un tel désastre que tout était possible. Il a des pages superbes à ce sujet-là, parce que en même temps, on voit son espérance. C'est ainsi que, pour répondre à ce que vous dites, il avait écrit ceci, que même il fallait se battre en dépit de tout, mais il ajoutait, même si cet optimisme était en défaut, et si comme en haut la royauté et par-delà tous les espaces la papauté, même si cet optimisme était en défaut, et si comme je ne crois pas tout à fait absurde de le redouter, la démocratie était devenue irrésistible, c'est le mal, c'est la mort qui devait l'emporter, et qu'elle eut pour fonction historique de fermer l'histoire et de finir le monde, même en ce cas apocalyptique, il faut que cette arche franco-catholique soit construite et mise à l'eau face au triomphe du pire et du pire. Vous voyez ? Donc il avait bien envisagé que c'était absolument possible.
La situation était extraordinaire.
J'y pensais justement avant cette émission, et donc, mais ça, cela dit, ça signifie qu'il faut toujours se battre, et je dirais, comme l'a dit tout à l'heure Patrick Goffman, que s'il y a un journal à soutenir, c'est donc le vôtre, et d'autres de nos amis, parce que si on se contente uniquement de se taper le derrière par terre en disant c'est catastrophique, et puis qu'on ne met pas la main à porter au portefeuille, c'est pas la peine, il y a qu'à aller se faire foutre, on est sûr d'être battu. Donc on peut toujours se battre. Et chacun le sait, Daniel Raffard de Brienne ici le fait avec une collection de petits bouquins et patents. Mais il faut se battre. Mais pour ça, il faut des maîtres et des témoins. Et c'est pour ça que je vous avais proposé qu'aujourd'hui, on parle un petit peu de Charles Maurras et de Pierre Guillaume.
Oui, alors ce qui est inattendu, je veux dire, quand vous m'avez parlé de ça, c'est que vous faites un parallèle entre Maurras et le commandant Guillaume. Alors c'est surprenant au départ parce qu'on voit pas bien, et en fait on voit beaucoup mieux quand vous citez deux phrases qui sont des phrases parmi les plus célèbres, enfin une des phrases les plus fameuses de Maurras et une phrase fameuse aussi du commandant Guillaume. Maurras disait: le désespoir en politique est une sottise absolue, et le commandant Guillaume a dit: je crois à un sursaut de la France avant la mort. Ce qui est d'ailleurs une phrase, si je ne me trompe pas, de Pie XII aussi, qui avait dit Macron sur un sursaut de la France. Mais enfin, en dehors de cet optimisme presque, enfin, qui est un optimisme religieux, transcendantal, est-ce qu'il y a d'autres rapprochements qu'on peut faire entre les deux hommes?
Oui, parce que enfin, l'un et l'autre se comprenaient très bien. Vous souvenez qu'on a lancé avec vous donc l'idée de l'année Maurras. Pour le cinquantenaire de l'année Maurras, puisque je vous avais proposé d'en parler, et vous m'avez ouvert votre antenne, et avec vous, ça a été Pierre Guillaume qui l'a fait. Et donc, c'était pour objectif de montrer qu'il y avait un maître et que, dans le fond, on n'était pas dans une période un peu de désordre et bien pire que celle qu'on pourra connaître, mais qu'en fait, c'était une question politique qui nous dépassait. C'est pas une question de régime c'est pas une question de gouvernement comme en ce moment, c'est une question de régime. Donc, il fallait revenir à Maurras. Et si on a pensé à cela, c'est que Pierre Guillaume, donc, est mort le 3 décembre 2002, et donc, il nous paraissait important de rappeler ces
50 ans,
donc de Pierre Guillaume, donc en 2002, donc il y a 3 ans. Et d'autre part, Maurras est mort le 26 novembre 1952. Et c'est pour ça que j'ai pensé à vous en parler, parce que l'un et l'autre sont des maîtres. L'un est un maître et l'autre est dans des témoins. Et je crois qu'il y a des choses qui sont toujours valables. Si vous voulez, on peut en reprendre quelques-unes, Serge. On avait pensé à celle-ci. Pierre Guillaume, donc, vous souvenez, avait comme surnom, dont le crabe tambour. Et le film de Schoendorfer. Mais enfin, qui n'est pas tout à fait exact, comme chacun sait. Et il y aurait pas mal à dire là-dessus, mais c'est pas l'objet. Bon. Mais Pierre Guillaume, faut se souvenir qu'il était simple lieutenant de vaisseau, le 22 avril 1961. Il décide évidemment de respecter le serment fait aux populations musulmanes, aux harkis, aux pieds noirs, et de pas abandonner l'Algérie. Il en paye le prix par une arrestation et son procès. Et quand le président du tribunal d'exception lui fait une observation, Pierre Guillaume présente alors son sabre à deux mains et lui lance « Et la foi, monsieur le président ». Ça, c'est caractéristique. C'est la même chose que Charles Maurras, qui est devant un tribunal d'exception du 21 au 27 janvier 1945. Hein, quand on l'a accusé d'avoir, lui, servi l'ennemi. Alors que toute sa vie, il avait lutté contre. Mais il s'est dressé, il s'est pas couché. Comme tant de gens se couchent actuellement. Il faut pas se coucher. Et lui qui avait à ce moment-là 77 ans quand il est passé devant le tribunal.
Il a fait une déclaration extraordinaire.
Venez donc, faux informateurs, faux transcripteurs ou manipulateurs de textes les plus clairs. Venez, mauvais interprètes d'intention. Venez, messagers, serviteurs et instruments des factions et des factieux. Venez, faux témoins. Il y a 4 mois que je place cette audience sous 2 grandes invocations, Jeanne d'Arc et André Chénier. À mon âge, la vie est peu. L'honneur, je défie qu'on s'oublie bien. Et c'est la prison. 2749 jours de prison, pas l'oublier, pour avoir défendu sa patrie, charnelle, intellectuelle et spirituelle. C'est pour ça qu'on a pensé tous les deux à faire ce rapprochement, donc, de Pierre Guillaume et de Charles Maurras, parce que, dans le fond, on les a connus, on les a vus. Et si l'année Maurras a été un certain succès, on le doit en partie donc à les antennes de Radio Courtoisie. Et faut pas oublier qu'avec Pierre Guillaume, on a eu 5 émissions sur Maurras.
Quel était son sentiment à lui sur Maurras? Parce que c'était un combattant.
Profondément admiratif. Et alors il était ravi parce que moi je l'ai connu, vous le savez, je l'ai connu à Jeddah. Quand il y était, moi aussi. Lui était chargé, donc, de conseiller le directeur des ports, Mohamed Baka, qui était un type extraordinaire, pour les ports d'Arabie Saoudite. Et On a rapidement accroché et sympathisé, ce qui fait que 17 ans après, quand on s'est connus là-bas, on s'est retrouvés ici à Radio Courtoisie. Donc, et c'est comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble. Et il était extrêmement heureux d'apprendre à connaître toujours davantage mon race. Il était très admiratif. L'autre jour, j'écoutais à nouveau une émission qu'on avait faite avec lui, et où ma fille, le docteur Françoise Bex, disait des textes de Maurras. À chaque fois, il disait, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il était, moi, je l'aimais, je l'adorais parce que il était comme un enfant en adoration. Mais quel homme! Alors, il faut rappeler que c'est ça, parce que, faut rappeler d'autres choses de Pierre Guillaume, si vous voulez. C'est quelque chose d'extraordinaire. S'est engagé volontaire dans la marine le 1er octobre 45. Va servir en Indochine de manière si héroïque qu'il est fait chevalier de la Légion d'honneur à 25 ans. Oui, chevalier de la Légion à 25 ans.
C'est quand même pas mal. Exceptionnel. Oui.
Trois autres citations s'étaient ajoutées auparavant à sa croix de guerre des territoires donc d'extérieur, à la TOE. D'autres citations se succèdent avec la croix de la vaillance vietnamienne. Mais là, il faut en reparler parce que parfois on nous reproche à cette radio de parler du souvenir, de ce qui s'est fait. Mais si on ne rappelle pas toutes les saloperies qui sont faites, et ce pour qu'on se bat maintenant, c'est pas la peine. Notre histoire est faite de haut et de bas, et on doit rappeler ce qui a été moche. Quand il y a eu l'évacuation stupéfiante des catholiques du Tonkin, après l'abandon dû à Pierre Mendès France. Pierre Guillaume, en violation du cessez-le-feu, pénètre à l'intérieur des rivières contrôlées par le Vietnam. Et il remonte jusqu'à la cathédrale de Phat Diem. À bord de son bateau, le Pertuisan LSSL, il récupère 4000 réfugiés, lui tout seul. Et au total, grâce à son action et celle des officiers français, 700 000 catholiques seront sauvés. Grâce à l'action de Pierre Guillaume qu'il a entamé. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il disait, ça vaut la peine de se rappeler, il disait ceci, Pierre Guillaume, qui se souvient de ces curés vietnamiens qui pleuraient en embrassant le pavillon français à l'arrière de nos bateaux. Qui se souvient de ces jonques, de ces camps sans pan, de ces radeaux de bambou portant des familles entières qui chantaient des cantiques. Ils voguaient demi-immergés vers la terre promise symbolisée par le pavillon français. Qui se souvient de toutes ces églises arborant le pavillon du pape? J'ai vu des réfugiés chanter les matines sur des bateaux en action de grâce. J'ai vu des femmes mettre un enfant au monde sur un radeau de bambou. Chaque paroisse avait sa bannière. C'est cela la chrétienté, nous a dit Pierre Arquache, qui a prononcé l'homélie sur sa tombe. Je rappelle à ce sujet-là, d'ailleurs, que ceux qui veulent un petit peu plus en savoir devraient redemander le numéro du livre journal, numéro 280, du 11 décembre 2002. Ils ont donc en deux pages l'homélie de Pierre Arouache, la Dieu au Crabe Tambour. C'est un texte superbe. Donc je rappelle, dans le Libre Journal, numéro 280 du 11 décembre.
Merci de nous citer. Alors,
5 euros ou un carnet de timbre à SDB, 4 places France 6, 75-010 Paris.
Il faut rappeler, pour être parfaitement juste, que le commandant Guillaume était le Crabe Tambour dans la vie, mais que le film... Le Crabe Tambour a été inspiré par la personnalité de deux combattants, de deux héros. D'une part, le commandant Guillaume, et puis le commandant François Langlais, qui a servi également, dont la vie et dont les combats ont alimenté le portrait du Crabe Tambour au cinéma.
Oui.
C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que le film n'est pas un portrait craché.
Non, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit qu'on aurait pu en parler. C'est très bien qu'un auditeur nous aide à nous souvenir de ça. Enfin, donc, on peut rappeler qu'on a affaire, je dirais, à un témoin, qui est donc le commandant Guillaume, pour répondre à votre question, qu'il était profondément admiratif de Charles Maurras, et que quand j'étais avec lui, donc il était très heureux d'en apprendre davantage. Et c'est pour ça qu'il faut remonter à des textes fondamentaux, et que j'ai essayé, dans ces deux tomes, Actualité et Présence de Charles Maurras, donc le tome 1, un très grand poète, La musique des vers au service de l'ordre, du beau et du vrai. Et dans le deuxième, l'Altissime. Donc c'était le nom que lui donnaient Jacques Bainville et René Benjamin. au service de la France et de l'Église. Donc, vous savez que c'est édité chez Chiré à Montreuil. Je rappelle quand même l'adresse, parce que l'autre jour, mon cher voisin me disait de redonner l'adresse. C'est donc chez Chiré à Montreuil, boîte postale 1 à Chiré à Montreuil, donc 86-190. Et d'autre part, à la librairie donc du Cannes, qu'on peut trouver ces deux livres. Et dimanche prochain, j'espère que Dieu le permettra, que je sois pas trop fatigué pour me trouver à Versailles pour pouvoir signer ce livre et d'autres.
Votre cher voisin, il salue un beau livre au sens libraire. Ce que les libraires appellent un beau livre, c'est qualité de papier exceptionnelle, des illustrations à toutes les pages. Et ça fait 186 pages dans un format carré tout à fait inhabituel. Et ça aussi, ça coûte cher. Et c'est 26€ le volume. Ça, c'est
un très beau livre.
Et 20€ le tome 1 sur la poésie. Enfin, ça, on a beaucoup travaillé avec ma femme, avec ma collaboratrice, et puis avec l'imprimeur Houdin qui a choisi le papier, les caractères, la mise en page, nous l'avons travaillé à fond ici, parce que je voulais que parmi tous mes livres, ce soit les deux qui sortent, je dirais, le plus, puisque ça c'est le résumé de toute ma vie.
Et en lisant là à l'instant une page de ce livre, justement, du volume 1, je pensais à tous ceux qui nous ont reproché, notamment quand on a pris la défense de la Serbie, quand on a pris, non pas la défense, mais quand on a dit que c'était peut-être pas absolument indispensable de bombarder l'Irak, que ça allait provoquer des flots de sang, etc. Beaucoup d'amis de nos milieux, de notre famille, nous ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette sensiblerie? Il y a des problèmes qu'il faut régler par la seule méthode qui est la guerre, etc. Et en lisant donc votre livre, je retombais sur les écrits de Maurras à propos de la guerre. On a présenté Maurras comme la propagande actuelle présente Maurras comme une espèce d'hystérique d'extrême droite, prêt à toutes les violences, prêt à un factieux, etc. Voilà ce qu'il disait en 39. La guerre, c'est une grande et terrible chose que la guerre. Alors une nouvelle saignée, alors un nouveau massacre. Ceux qui croient à la pusillanimité sont des imbéciles. Ceux qui écrivent noir sur blanc des rodomontades à Berlin sont des malheureux. Notre pire ennemi est la légèreté. De l'incurie diplomatique, cela nous fait l'effet de simples fautes d'orthographe sur du papier à tranches d'or. Regardez mieux, de plus près, c'est du sang humain. Et je trouve cette phrase admirable parce que ça résume exactement la situation présente de notre pays. On a l'impression que les hommes politiques sont au pouvoir, sont de simples imbéciles, sont pas de simples imbéciles, ce sont des criminels. Et les textes qu'ils signent et les discours qu'ils font sont pas simplement des fautes d'orthographe ou des fautes de français, c'est du sang humain.
Ouais. C'est toujours comme ça que ça se fait. C'est pour ça que ce sont deux modèles et qu'il était bon de les rapprocher. Ceux qui voudraient entendre les émissions qui avaient été faites et dirigées par Pierre Guillaume, faut quand même se rappeler qu'il pendant 8 ans, il a dirigé les émissions du lundi, ce qui est quand même un exploit assez étonnant.
Enfin, qui était un rendez-vous très très suivi.
C'était très très suivi.
Alors, il a fait jusqu'au bout. Hein. Les dernières émissions, on sentait que le pauvre...
J'ai fait avec lui l'avant-dernière. Et avec Maître Wagner, et d'ailleurs je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir le dire que j'ai retrouvé donc la prose de Maître Wagner dans présent, donc de mardi.
Ah oui, et oui, donc, oui exactement, il faut dire qu'il est revenu.
Je lui présente tous nos voeux de rétablissement encore très rapide, et nous sommes très heureux de le retrouver par là, donc dans présence avec cette bonne plume. Ben, nous avions fait avec Maître Wagner la dernière émission des 5, qui était sur Charles Maurras et la justice. Nous avions fait ça tous les trois. Alors les émissions, si jamais vous voulez commander des cassettes, donc à Radio Courtoisie, ce sont des émissions des 26 novembre 2001, 26 novembre, 7 janvier, 25 février, 6 mai, 21 octobre 2002. À Radio Courtoisie, donc 61 boulevard Murat, 75-016 Paris, c'est 9€ pour les abonnés. J'espère que vous l'êtes tous, parce que ce ne serait pas très correct, très gentil de ne pas être abonné à cette radio. Mais si par malheur vous ne l'êtes pas et que vous avez oublié, mais vous allez compenser ça demain matin, j'en suis sûr, parce que ne serait-ce que par honnêteté, le prix est de 11€ la cassette. Donc je dirais, pour finir ici, deux choses, si vous permettez, à propos de Pierre Guillaume et de Maurras, parce que ça me paraît important. Vous avez encore une minute
sur... Bien sûr.
Pierre Guillaume, il apprend la mort au combat de son frère Jean-Marie, le 22 mars 1957. Celui-ci était lieutenant et commandait un commando de parachutistes coloniaux. Pierre Guillaume revendique alors l'honneur de remplacer ce frère. Il change d'arme de la marine à l'infanterie coloniale. Ce qui ne s'est pas produit depuis un siècle. Geste magnifique, geste de chevalier. Et rappelons-nous la phrase que nous connaissons tous, si nous sommes chrétiens, il n'y a pas de plus grande épreuve d'amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Cet acte d'amour pour son frère, c'est aussi un acte d'amour pour la France. C'est l'honneur de service. Et rappelons de Charles de Maurras ceci. Le 22 juin 1944, Maurice Pujot et Georges Calzan sont arrêtés par les Allemands et détenus au Fort Montluc à Lyon, presque parce que responsable du mouvement L'Action Française, son quotidien. Maurice Pujot, donc, est le père de Pierre Pujot, qui dirige donc l'Action Française, qui paraît donc deux fois par mois, et que vous connaissez bien comme une excellente publication. Charles Maurras se rend immédiatement à la Gestapo, toute affaire cessante, et demande d'être incarcéré à sa place. Immédiatement. Il était conduit. Même décision, même du courage du maître et du main. Charles Maurras a servi par sa plume et par son exemple. Et il sert toujours, parce que quand on le relit, on est toujours enthousiasmé. Ça fait quelques petites années que je pratique Maurras, depuis l'âge de 12 ans, donc. Et comme j'en ai 85, ça fait quelques années. On retrouve toujours sa phrase, ses phrases, cette prose magnifique, poétique, sa poésie qui vous prend, qui vous saisit. Et donc Charles Maurras a servi par sa plume et par son exemple. Et Pierre Guillaume a servi par son exemple et par la parole durant 8 ans, tous les lundis à Radio Courtoisie. Donc l'un et l'autre étaient d'une gentillesse, d'une courtoisie, d'une modestie exceptionnelle. Mais c'était des lions au service de la France. Leur seule patrie. Leur seule passion. On peut finir par ceci. La mort, ils sont si grands à nos yeux à leur mort. Ils se sont fait tout petits devant notre Seigneur. Il les a endormis dans une paix certaine, entre les bras de l'espérance et de l'amour, car leur cœur de soldat n'a point connu de la haine. La haine.
Merci François Barry. Un auditeur nous dit, il vous remercie, et il dit qu'il demande quel ouvrage offrir à une personne qui n'a jamais lu Maurras. Pouvez-vous nous donner 2 ou 3 titres permettant de comprendre facilement sa pensée?
Dans les rééditions, sont mes idées politiques.
Voilà. À l'âge d'homme.
À l'âge d'homme. C'est ça, c'est ça.
Et puis on peut lire vos deux tomes parce que ils sont un résumé et un portrait de Maurras.
Et d'autre part, mon livre, vous le savez, que on l'a présenté ici, France notre seule patrie, puisque dans France notre seule patrie, c'est également consacré en grande partie à Maurras. Il y a environ 450 citations. Donc l'un et l'autre, avec Chirin Monteuil. Mais l'autre jour, donc Patrick Goffman m'avait fait remarquer, je n'avais pas donné le téléphone de Chirin, justement, l'autre jour. Je rappelle que le téléphone, c'est 05 49 51 83 04. 05 49 51 83 04. Donc, boîte postale 1 86 190, Chirin Monteuil. Et là, donc, dimanche, à la fête du livre. Cher Serge, merci.
Merci à vous.
Merci et heureux de vous avoir retrouvé avec Daniel Raffaire de Brienne, Patrick Goffman, et donc le marquis que je lis régulièrement, donc, et que je salue.
Et content de savoir qu'il a un lecteur en moi.
Les auditeurs.
C'est la jalousie du chef, ça.
Donc, les auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur ont le droit de savoir que viennent d'entrer successivement dans ce studio, par ordre chronologique, bien sûr, Jean-Pax Meffray, et l'exquise Anne Brassier, dont nous ne pensions avoir que le ramage ce soir.
Mais nous n'en sommes plus mages.
En tout cas, c'est un bonheur de les avoir en face de soi. Oui. Vraiment.
Donc je vous salue et que Dieu vous et nous garde.
Merci.
Puis-je dire un mot?
Oui, oui, Daniel.
Je voudrais dire toute mon admiration pour mon ami Algou, qui est un combattant admirable, qui ne combat pas que pour Maurras.
Doucement la basse.
Non, je le dis parce que je le pense. Un combattant tenace et malgré son âge. Et admirable et droit.
Bon, alors, on va mettre un terme à ces échanges de compliments, parce que on va le faire comme toujours d'une façon, désinvolte et blagueuse. Un auditeur nous dit, François-Marie Algou a oublié de nous préciser que Maurice Pujot est le père de la cime kabyle Pujot, bien entendu. Voilà. Bon, ça, c'est pas bien méchant. Bon,
on va encore me supprimer mon abonnement à l'Action Française, je crois.
Voilà. Le commandant Guillaume nous manque toujours, dit une auditrice. Existe-t-il, demande une auditrice, une vidéo ou une DVD, ou un DVD du Crat de Tambour? La réponse est oui.
Oui.
Ça se trouve dans...
partout, dans toutes les grandes maisons qui vendent...
toutes les bonnes maisons de vente de DVD et de vidéos, et puis probablement quelques mauvaises charcuteries où le gars sait pas ce que...
Je viens d'offrir à mon petit garçon de 15 ans pour le récompenser d'avoir fugué, et dans l'espoir peut-être vain qu'il devienne un marin à son tour.
À propos de charcuterie, d'ailleurs, une auditrice nous dit il n'y a pas que les charcutiers qui ont des problèmes. Pardon. Moi, j'ai eu des problèmes parce que j'ai refusé d'embaucher une femme de ménage qui voulait bien travailler chez moi, mais elle ne voulait pas entrer dans la cuisine ni toucher le frigo parce qu'il y avait du cochon à la maison. Donc, évidemment... Et puis elle voulait probablement pas passer non plus la brosse parce que c'était du poil de cochon, enfin on n'en sort plus. Et elle n'a pas non plus ciré les meubles qui étaient probablement enfin les canapés étaient en, comment ça s'appelait déjà?
En pot de porc.
Anne, en pot de porc, oui.
Elle voulait bien mettre des somnifères dans le biberon du petit, j'espère.
Comment se fait-il quand même que dans les loges on ait rencontré parfois des frères arabes?
Parce que le tablier en peau de cochon,
là, je comprends
il
pas.
Paraît que c'est pas de la peau de cochon, il paraît que c'est de la peau d'agneau.
Oh, c'est du plastique.
Moi, je croyais que c'était de la peau d'aran, mais non.
du plastique.
Voilà. Quel est votre sentiment sur la déclaration de Chirac au Mali à propos des visas de long séjour qu'il compte accorder? Est-ce que vous voulez vraiment que je réponde?
Non.
Compte-t-il les héberger au château de Biti? Mais bien sûr. Ah, il y a un truc qu'on a oublié de dire, au fait, c'est que... Sarkozy a annoncé aller en Guadeloupe.
À Guadeloupe, Martinique.
En Martinique, parce qu'il avait peur de se faire botter le train. Alors qu'il a dit une chose formidable, quand même, il n'a pas dit ça, bien sûr, parce que ça serait un aveu gênant. Il a dit que c'est parce que ça ne serait pas décent de se promener au milieu de haies de CRS. Parce que quand il se balade à Paris, il n'y a pas de flics pour le protéger? Non, mais il nous prend vraiment pour des pélicans.
J'ai entendu plusieurs Antillais sur les médias, les radios aujourd'hui, expliquer que la présence française là-bas était un crime contre l'humanité, ou peu s'en faut. Donc je suppose que c'est une façon pudique à eux de demander qu'on leur supprime les allocations braguettes et autres.
Ben oui, je pense que c'est ça.
Ils sont en train de nous demander de trier les Antilles. Oh ben là, bon, il n'écoute plus, là.
Les Guadeloupéens, ils veulent passer à Guadeloupe 2, c'est ça? Je pense un peu comme vous, dit un auditeur, mais quand on voit les gens qui arborent le gamma inversé contre le sida, on se rend compte que ça marche. Je sais pas si ça marche, mais s'il suffit d'avoir un gamma inversé pour pas attraper le sida, je pense qu'il y aura moins de contagion, non?
La Guyane vient de passer devant l'île de France pour le record de sida.
Et en nombre absolu ou en pourcentage?
En pourcentage, bien sûr. Je vous rassure, il y a beaucoup plus d'Antillais à Paris que dans toutes les Antilles réunies, bien sûr.
Ils ont un signe de reconnaissance entre eux. Ah bah oui, c'est ça, donc le gamin, c'est... D'accord, j'ai compris. Et, n'empêche que le gamin, c'est pas très malin d'avoir choisi ça. Enfin,
c'est plutôt bêta.
C'est plutôt bêta.
Vous regardez le logo du TGV à l'envers, c'est un escargot.
Exact.
Alors, ils sont pas très malins, mais ils sont très bien payés, les gens qui fabriquent les logos.
Et le nouveau logo, ça c'est un auditeur aussi qui le fait remarquer, un lecteur du Libre Journal plutôt, le nouveau logo de Gaz de France. Si vous regardez bien, ça veut dire allez vous faire cuire un œuf, parce que c'est une petite flamme bleue, et dessus il y a une espèce d'œuf, quoi, voilà. Donc, allez vous faire cuire un œuf. Georges Frêche, y compris sur l'immigration, a des positions plus à droite que le FN. Oula.
C'est
un auditeur qui dit ça, monsieur Frêche. Moi, je suis pour rien. Oula. C'est très grave d'avoir des positions plus à droite que... Plus à droite, oui, c'est bien ça.
Pourquoi il y a de la place
plus
à droite?
Plus maladroit, c'est difficile, mais plus à droite, c'est pas... Hein?
Il y a de la place plus à droite?
Ben, apparemment,
il faut voir.
Il y a les identitaires, puisque Marine Le Pen a dit que les identitaires, c'était l'extrême droite.
Il y a beaucoup de place, puisque M. Le Pen se définit comme un homme politique de centre-droit.
La porte de l'eau fraîche sans moulin.
Donc, Anne Brassy, vous pouvez parler.
Mais elle veut pas, elle préfère écrire.
Et me rendre mon salut.
J'ai invité Anne ce soir parce qu'elle a eu une initiative.
Non, c'est toi.
Pardon, c'est pas moi,
c'est Marie-Claude.
C'est Marie-Claude Monchou, voilà.
Qui, du fin fond de sa campagne, un cerveau qui fonctionne 24 heures sur 24, et qui avait déjà créé un prix du livre jeunesse, le prix Saint-Exupéry, il y a quelques années. Le prix.
Dont elle a été éjectée.
Le prix,
c'est fabuleux. Non mais attends.
Ils sont entrés des gens comme Monsieur Orsena, comme Poivre d'Arvor, comme du très très grand monde, qui entendaient qu'un seul son de cloche soit donné, et en tout cas pas celui de Madame Marie-Claude Monchot, qui, je le répète, a beaucoup beaucoup d'ancienneté, puisque il y a 30 ans, je vendais à la librairie Magnard les livres de Marie-Claude Monchot, c'est-à-dire Bébé Année Zéro, et j'avais été éblouie par son dessin.
Elle fait très très jolie dessin.
Et je trouve ça assez délicieux que 30 ans plus tard, je retrouve Marie-Claude Monchot. Et alors, donc, nous téléphonons souvent. J'aime beaucoup ses livres,
C'est les biographies des enfants rois.
Enfin, Louis XIV, Louis XV et Adélaïde.
Ah oui, le dernier, là, superbe.
Très joli. Et donc, elle a voulu repartir à l'assaut, puisqu'elle n'est jamais battue et jamais couchée. Elle est repartie à l'assaut et elle voulait recréer un prix. Donc Serge a dit oui, Marie-Claude. Téléphonez donc à Anne. Et voilà comme ça comment j'ai récupéré le bébé. Et Anne a dit c'est d'accord parce qu'elle aime beaucoup Marie-Claude et qu'elle dit beaucoup souvent oui à Serge, même la plupart du temps. Et donc
Daniel est à l'écoute.
Voilà, et Michel aussi.
Il est même dans le studio pour le faire.
Et voilà Anne embarquée pour faire ce prix. Elle a trouvé des comparses avec donc Marie-Claude et la présidente. Jeanne Smith est le premier juré, Jeanne Smith directrice de présent, Gabrielle Cluzel, la jolie novelliste de Mondévy, est aussi jurée, Hélène Fruchard qui est une lectrice professionnelle qui est une de mes amies, et donc la dernière Anne Brassier. Alors, et nous avons à l'unanimité.
Il faut quand même que j'ajoute une petite anecdote, c'est que Anne téléphone à Danielle, ma femme, pour lui dire est-ce que vous voulez appartenir au jury du prix Saint-Exupéry. Et Daniel, moi je trouve ça absolument délicieux, lui dit mais non, écoutez, j'ai aucun titre, j'ai pas de titre à juger des livres, je suis une lectrice lambda et donc je peux pas accepter d'être juge dans un jury, d'être juré dans un jury qui distribue des prix littéraires. En gros, alors quand on pense au nom que citait Anne tout à l'heure, de gens qui lisent un livre,
qui lisent même pas les livres qu'ils publient,
qui lisent même pas les livres qu'ils publient, c'est ça. Je trouve qu'il y a une espèce
c'est la modestie, la gentillesse et l'élégance de Daniel.
C'est joli. Ouais. Voilà. Alors donc ce prix.
Alors ce prix va être remis en grande pompe dimanche après-midi à la fête de Renaissance catholique à Villepreux, et nous pouvons dès maintenant.
Il faut dire non, dès maintenant qui va le recevoir.
C'est-à-dire que Serge, je, avec votre permission, j'ai déjà couronné jeudi dernier dans mon émission.
Ah ben oui, c'est vrai.
Jean-Louis Serrier. Alors il y a notre prix est assez exceptionnel parce qu'il y a deux prix, petite enfance et grande enfance, et que c'est un prix comme nous sommes très généreux qui sera remis deux fois par an, l'un en décembre puisqu'il y a Noël et l'autre en juin puisque toute bonne valise pour les vacances est pleine de livres. Donc, deux fois, et cette année, pour le premier prix, donc, nous avons à l'unanimité choisi Jean-Louis Serrier pour sa collection Petit Ange.
Qui est ma collection favorite, moi j'ai ma bibliothèque.
Qui est une très jolie collection, c'est un petit garçon, Petit Ange, et qui, dans une situation donnée et une seule, voit sa vie décrite à chaque page, et ça se termine par une morale. Petit Ange aide sa grand-mère. Petit ange obéit à sa maman. Petit ange donne quand il est récompensé parce qu'il a tondu une pelouse ou ramassé des feuilles, son papa le récompense. Son papa ne le paie pas. Ce papa le récompense et il a cet argent. Et qu'en faire? Eh bien, il va le donner. Au tronc de son église.
Ouais, il faut dire que c'est Clovis qui publie ça. Clovis, le directeur de Clovis, c'est quand même l'abbé Cellier, donc il se dit qu'il faut préparer les générations montantes. Hein. Voilà. On s'en fout.
Voilà, donc c'est une très
on
jolie.
On peut le voir quelque part, ce petit homme.
Et on le voit, dans certaines familles, absolument. Ouais. Et je peux vous dire que les enfants en raffolent, parce que c'est très simple. Et pour les mamans, c'est très vite lu quand elles sont fatiguées le soir. C'est pour les tout petits. Pour les plus grands.
Enfin, moi, je
le lis avec plaisir.
Nous avons choisi. Oh, et il y a une cassette vidéo. Il y a une cassette vidéo qui reprend chaque livre avec un air extrêmement entraînant. Je l'ai regardé moi-même avec un petit neveu et je me suis régalée. Le deuxième prix, prix jeunes enfants, eh bien c'est Francis Bergeron qui a été choisi pour son extraordinaire collection du clan des Bourdesoules et notamment les deux derniers, Le secret de la dune d'Escoublac et Le secret du château de Bargenton.
Il y en a un qu'il faudrait offrir à Jean-Pax Meffray, c'est Le secret du grand-père disparu.
Oui.
C'est l'histoire de le clan des Bordesoules, donc c'est
des
enfants qui...
C'est quatre enfants, trois garçons et une fille.
Qui sont un peu détectives.
8 à 12 ans.
Des aventures comme ça. Et le grand-père disparu, c'est un grand-père qui a disparu en Algérie. Ton pays natal, j'en parle, au moment où, en 62, quand certains Français ont été enlevés, c'est une très belle histoire, très forte, hein, c'est pas du tout un truc pour les enfants.
Francis a à multiples facettes, il a un très gros job, et il écrit, et il est le secrétaire de l'association des amis d'Henri Béraud, et il publie des livres, beaucoup de livres sur la littérature. Et je dois dire que ces livres sont délicieux. Je les dévore, moi, en une soirée. J'apprends des choses. J'ai appris notamment ce que c'était que le pli serviette que l'on voit dans les églises qui est typique d'une époque. Et c'est ce pli serviette, eh bien, il est dans cette cathédrale engloutie sous la dune d'Escoublac, près de la Baule.
Et le clan des Bordesoules avec Sanders.
Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Francis Bergeron, son œuvre a été reconnue partout. C'est une série qui marche bien aux éditions du Triomphe. Et qu'il a plusieurs fois été, comme on dit, nominé, second, mais il n'a jamais été premier parce que Francis a de mauvaise fréquentation, c'est bien connu. Puisqu'il le connaît.
Il aime Béraud
en plus. Voilà. Donc deux prix. Petit ange et le secret des dunes et Jean-Louis Cherrier et Francis Bergeron.
Alors ça se passera dimanche
après-midi
à Villepreux, en grande solennité on mettra le prix des petits princes.
Le prix des petits princes, voilà, on n'a pas choisi le prix du petit prince parce que il pourrait nous tomber des royalties à payer comme nos poches sont relativement percé, nous n'aurions pas trouvé. Et le prix, eh bien, il faut savoir ce que gagnent ces deux auteurs.
Oui, je n'osais pas poser la question.
Voilà.
C'est un chèque du Goncourt, quand même.
Ils gagnent notre amitié, notre admiration d'abord, et ensuite, ils gagnent, eh bien, des espaces sur nos ondes et dans nos journaux, ce qui est, vous le savez, au prix du tarif publicité, considérable.
Voilà. Vous dites, Gérard, que c'est un très beau cadeau quand on a de la publicité dans nos journaux. Redites-le, va servir à quelques-uns.
Il faut le dire à des gens qui pensent que c'est gratuit ou même qu'il faut nous le rembourser à coups de pied aux fesses.
Et évidemment, quand ça vaut plusieurs, ça vaut des cinquantaines d'abonnements.
Voilà. Puisque
une seule
vous
parole.
Parlez de grand prix, enfin de prix, Daniel, qui est un magicien, Daniel Raffard de Brienne, sort de sa poche le grand prix de la littérature catholique, c'est ça ?
Le grand prix catholique de littérature.
Voilà.
C'est
alors là, c'est
bien aussi.
C'est moins bien, évidemment, que des heures d'émission sur Radio Courtoisie, des pages entières dans le Libre Journal, temps présent.
C'est signé Daphné Du Barry.
Mais
bravo. Daphné Du Barry expose en ce moment, chers auditeurs.
Vous êtes sur Télé Courtoisie.
Hôtel à Trac.
Un hôtel Ariotte, un hôtel américain.
Marriott. Rue de la Paix, oui.
Et le vrai nom, c'est Marquis Marriott.
Rue de la Paix.
Et c'est magnifique.
Alors, il faut expliquer quand même que Daphné Du Barry, c'est une. Comment on dit
sculpteur.
Un sculpteur. Madame sculpteur.
Un sculpteur.
Qui a un talent magnifique et qui a fait. Alors là, c'est une grosse médaille de bronze qui représente au verso.
À la verre, pardon. Oh là là.
Merci Patrick. Voilà, c'est ça. C'est ça un correcteur. C'est ça.
Absolument.
Un correcteur typo.
Le marquis a corrigé en cœur.
Oui, mais parce que lui.
Vous êtes bien entouré finalement.
Il est éduqué. Bah oui, c'est pour ça que j'ai réussi.
Les colonnes du temps.
Avec ma femme et mes amis, je n'ai pratiquement plus rien à faire. Je pourrais dormir toute la journée. Donc, qui est ce saint homme qui est présenté ? Dites-moi.
Je crois que c'est Saint-Ambroise.
Saint-Ambroise, voilà, qui présente un livre ouvert, selon les gnostiques, vous expliqueront ce que ça veut dire.
Oui, ça, je sais à qui m'adresser.
Et voilà. Et avec donc une colombe qui lui touche le front de son bec, qui est donc le Saint-Esprit, et au revers, c'est ça, hein, encore un livre ouvert avec le symbole du Christ. C'est ça? C'est le symbole de la chrismation, je crois, oui. Grand prix catholique de littérature. C'est très chic, hein, c'est très beau. C'est pas pour moi.
Attends,
il faudrait que je commence par écrire un livre.
Attendez, il faut d'abord voir si votre dictionnaire sera retenu, quand même.
Oui, j'en serais fort surpris. Hein. Comme littérature catholique, on a déjà fait un tout petit peu.
C'est pas très catholique, Becker, c'est bien.
Bien, eh bien, merci Yann. Quand est-ce que vous repassez sur Radio Contrée? Vous êtes souvent invité, vous, hein, Germain?
Demain matin, avec votre invité. Ce que j'aime, c'est la permanence des connivences. Nous,
ben oui.
Nous avons le même invité.
Ah, François Marie.
Vous ce soir et moi demain.
Absolument délicieux.
Ah, il est délicieux.
Et ce livre est très joli.
Parce qu'il est parti.
Parce qu'il donne une image de Maurras que nous ne connaissons pas et beaucoup, beaucoup de documents.
Et c'est un magnifique poète. Bon, on le savait depuis longtemps, mais enfin, il y a vraiment des choses. Il a fait une sélection de poèmes.
Ouais, c'est très bien fait.
Tous admirables. Des messages d'auditeurs que vous m'avez communiqués, mon cher Marquis. Info sur... Ah oui, ça c'est très joli. C'est un auditeur qui nous donne une information. Les communes qui ont été vandalisées, ne parvenant pas à se faire rembourser par leurs assurances, se sont regroupées pour obtenir du ministère... Alors, vandalisé au cours des émeutes urbaines dues au malaise social, je ne sais pas comment on dit l'autre, là, se sont regroupées pour obtenir du ministère un classement en catastrophe naturelle. Non, mais attendez.
Ça va vexer les naturels, ça.
Ça me rappelle le problème d'Azouz Bézac.
Exactement.
Les insectes.
Azouz Bézac qui dit, nous serons les criquets.
Oui.
Nous enfoncerons les portes.
Des descendants
de Vercingétorix.
Oui, ben,
j'ai sa phrase dans le journal.
Redis-la.
C'est absolument incroyable.
C'est page 11, Serge.
Page 11.
Ça mérite. Oui, c'est extrait du magazine Respect.
Il faut
respect. Voilà. En bas de la première colonne de la page 11.
Voilà, alors, c'est Azouz Begag, merci Patrick.
Azouz Begag, mon ami.
Ministre.
Qui est ministre.
Oui.
Hein, bon, la promotion de l'égalité des chances.
Il faut traverser le périphérique, aller chez les indigènes, là-bas, les descendants de Vercingétorix. Il faut casser les portes. Et si elles ne veulent pas s'ouvrir, il faut y aller au forceps.
Là, il est un peu obsédé parce qu'il veut parler de pince monseigneur ou de pied de biche, mais il est obsédé.
Partout où la diversité n'existe pas, ça doit être une invasion de criquets. C'est quand même formidable. Dans les concours de la fonction publique, dans la police nationale, partout, de manière à ce que l'on ne puisse pas revenir en arrière. Et ben voilà.
Alors, il faut lui dire merci quand même, parce que ça a permis... Il faut lui dire merci à Monsieur Bongag, parce que ça a permis à notre ami Char, dont on connaît le talent dessinatrice, de le reprendre de voler et de représenter nos amis sous forme de criquet, ce qui lui aurait sans doute coûté très cher si elle en avait pris l'initiative, au lieu d'obéir à Monsieur le ministre Azouz Bongag.
Ah oui, alors il y a une annonce que je vais faire, puisqu'il nous reste 2 minutes avant la fin de la première partie, puis après on recevra solennellement Jean-Pax Meffray.
Il y a les gardes républicains et tout.
Oui, le tapis rouge, tout est là. Donc un auditeur, et par l'intermédiaire de Daniel Raffard de Brienne, nous invite à... oui, je me trompais de côté. Parce que, nous invite à signaler que monsieur... C'est fini de se moquer de moi, Patrick, attention, on serait puni.
Pardon.
Didier Van Kovelaar était invité aux grosses têtes aujourd'hui pour son livre Cloner Jésus-Christ. Ces mecs, pour vendre quelque chose, ils iraient vraiment n'importe où. Hein, n'importe où. Des grosses têtes pour comment.
C'est pas la pire.
Je ne pense pas que ce soit le titre de son livre. Tiens, je voulais. Non.
Cloner Jésus-Christ.
Non, c'est pas le titre, c'est la bande.
C'est le linceul de Jésus.
Ah, voilà. La bande, elle lui échappe, hein, comme toujours.
Et puis. Monsieur Schweitzer, qui va pouvoir... Oui, alors ça, c'est amusant. Monsieur Schweitzer, qui dirige la Haute Autorité contre les discriminations et qui a, de ce fait, une chronique sur Europe 1, a saisi le CJO pour que au 100 et 200 mètres haies, il y ait 50% de coureurs blancs. Ça va être difficile. Non, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce monsieur-là, il a été sanctionné par le tribunal et qu'on vient de lui donner la possibilité d'infliger des amendes.
Très, très bien.
Non, on va attendre une seconde.
Ah oui, ben ça, vous y échapperez pas.
Voilà, eh bien, Jean-Pax, mes frères, parti. Ah non, le voilà qui arrive. Assieds-toi, Jean-Pax. On va pas faire semblant de se vous soyez, parce qu'il y a à peu près 30 ans qu'on se connaît.
Un peu plus, ouais.
Un peu plus, même.
Vous m'aviez dit que vous me laisseriez la parole 20 secondes.
35.
Eh bien, alors, prenez-la.
Résistons, résistons. Ouais, j'y vais, résistons. À propos du prix du Petit Prince. Alors, le prix du Petit Prince va-t-il inciter Serge de Beketch à sortir enfin le livre qu'il a commencé d'écrire avec Alain Sanders il y a bien 15 ans maintenant. Voilà.
Oh, quel échec, où sont-ils passés?
Ah non, l'échec n'a jamais été. Ah non, non, ça, j'ai un principe absolu, j'ai toujours respecté scrupuleusement, je n'encaisse l'échec que quand j'ai envoyé les bouquins, parce que j'ai d'autres exemples qui n'ont
pas
sinon,
été... Oui, sinon, après, on a du mal à faire 100 et tout ça.
Ouais. C'est après, échec, chaque fois qu'on franchit une frontière, on sue à grosse goutte. Non, non, non.
Voilà, j'ai dit, vénérable.
Voilà, merci.
Et vous lisez pas le message comme quoi l'émission est géniale?
Oui, il doit arracher les mains, chef.
Bien. Jean-Pax, bonsoir.
Bonsoir.
Ça fait très très plaisir de te recevoir parce que tu es un personnage rare dans tous les sens du terme. Et j'aurais bien voulu te recevoir quand tu as publié ton bouquin sur Bastien Thiry, puis ça n'a pas pu se faire pour des raisons qui ne dépendaient ni de toi ni de moi. Mais là, quand même, comme tu sors un disque, tu publies un disque, c'est la première fois depuis combien de temps maintenant?
Ça fait plus de... Ça fait une vingtaine d'années.
Ça fait 20 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant 20 ans... Chaque fois que j'ai rencontré des y compris des très jeunes gens, qui me disaient « Ah mais oui, vous connaissez Jean-Pax, pourquoi il fait plus de disques? Quand est-ce qu'il, où est-ce qu'on trouve ces disques? Est-ce qu'on trouve encore ces disques ?» Tout. C'est assez étonnant de voir à quel point tu es resté dans la mémoire de la famille et de la mémoire de jeunes gens qui t'ont pas connu.
Et surtout, je peux témoigner, j'étais à la porte de votre dernier concert et vous aviez sans doute les lumières dans la figure. Mais moi, j'étais à la porte avant de le Libre Journal comme d'habitude et il y avait que des jeunes.
Avec des jeunes, oui. Je le dis d'ailleurs puisque l'objet c'est le disque live là du le double CD. Il y a deux CD sur l'enregistrement du concert. Et j'ai été surpris parce que je croyais que on avait retrouvé des gens qui avaient soutenu les chansons à l'époque. Mais là, c'était des jeunes de 16, 17, ouais. 18 ans qui connaissaient les chansons par cœur, surtout.
Incroyable, ça.
Et ça montre à quel point le disque, comme ça, ouais. Résiste à tout. Ouais. Quoi. Beaucoup plus qu'un livre, malheureusement. Mais,
Et puis, physiquement, t'as pas changé. Ah, c'est-à-dire que, non, c'est t'as pas pris un gramme.
Ah non,
t'as un peu grisonné, mais oui, tu n'as pas changé.
Ouais.
Et, moi, tu n'as pas changé. Mais je me disais, si moi ça m'était arrivé, ça imaginait qu'au lieu d'écrire, j'ai choisi de chanter, encore que lui, il a fait les deux.
Ouais.
Mais pas quand je reviens sur scène aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le même succès.
Dario Moreno.
Oui, on va faire un exagérant.
Virez-le, Serge, il est trop insolent.
Oui, aussi. Alors, le principe de ce disque, c'est un disque pris sur le vif. On appelle ça live maintenant.
Live, oui, sur le vif.
Autrement dit, c'est un spectacle enregistré.
C'est un spectacle qui a été donné en 2004. Et c'était un spectacle, c'était audiovisuel en même temps, parce que lorsque je chantais, les chansons étaient illustrées par des images derrière moi.
Et alors, c'est...
je chantais avec des musiciens, ce qui était assez exceptionnel, parce que généralement on vient chanter avec des bandes. Ce qui fait aussi que toutes ces chansons ont été revisitées, quoi. C'est un, là elles sont accompagnées au piano, guitare, percussion et contrebasse, mais ça leur donne une autre couleur. Et ce qui est un peu plus fort dans ce disque aussi, ce sont les enchaînements qui permettent de raconter ce. En fait, j'ai fait ça dans un voyage à travers l'histoire qui commence au départ
débarquement américain de Normandie et qui se termine par la chute du mur de Berlin en rendant un hommage à Jean-Paul II.
C'est un peu une ambiance de feu de camp. De feu de camp, je ne sais pas, il ne faut pas penser que c'est réducteur ce que je dis.
Non,
c'est
oui.
Quelqu'un qui raconte.
Une veillée, quoi.
C'est ça, une veillée.
Ouais.
Donc tu racontes, et puis tu illustres ce que tu racontes par des chansons, ou tu chantes et tu accompagnes tes chansons de commentaires. Ça dépend de ce qu'on privilégie. Mais...
Oui, je prépare l'arrivée de la chanson, voilà. Quoi. Dans le commentaire, je resitue.
Ça commence par un de tes plus grands succès, qui était Véronica.
Oui.
Qui est une chanson culte, comme on dit.
C'est vrai.
Vraiment, ça c'était un truc incroyable quand Véronique est sortie. Et Jean-Pacques dit, ce furent deux soirées intenses, deux soirées éclairées par les feux de l'histoire, celle qui commence avec le débarquement allié de Normandie, qui annonçait la fin du monstrueux régime, etc. Et ensuite vient Véronica. Et puis,
Une chanson qui est inédite, c'est une chanson que j'ai faite sur les femmes tondues à la Libération.
Qui est assez terrible de dire.
Ouais. Je l'ai fait à partir d'une, j'ai écrit cette chanson à partir d'une photo de Capa qu'on connaît, qui est une photo qu'on a vue partout. Et c'est cette jeune fille qui porte dans les bras.
Avec son enfant dans les bras et qui a le crâne tendu.
Et qui a le crâne tendu.
La croix gammée sur le front.
Voilà. Donc, et puis il y a une dernière chanson aussi qui est un peu autobiographique qui s'appelle Les Galères.
Alors, on va en écouter une. On commence peut-être par celle-là, cette chanson Matin grisâtre.
Oui, on peut.
Alors, est-ce que ça a été calé comme ça, Franck, ou
non,
pas?
Non,
pas du tout.
En fait, on avait calé le. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est la chanson sur. J'ai 3-4 chansons qui concernent le chapitre Algérie. Il y a une chanson sur l'Algérie où je raconte ce qui s'est passé. En fait, l'histoire de l'exode est pour beaucoup de personnes qui étaient dans la salle et beaucoup de jeunes surtout, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Comme ça a été nouveau aussi lorsque j'ai présenté Dien Bien Phu en expliquant ce qui s'était passé, en racontant notamment la triste histoire des dons de sang. Où le ministère de la Santé refusait le sang, avait bien précisé sur les affiches que le sang ne servirait pas aux blessés d'Indochine. Et ça, je le dis dans l'enchaînement. Et...
Comme quoi, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, je vous rappelle quand même qu'il y a eu les cérémonies du bicentenaire de la bataille d'Austerlitz, auxquelles la France n'a pas participé.
Les officiels.
Alors que le gouvernement avait envoyé une délégation pour la commémoration de la bataille de Trafalgar
oui.
Et qu'on a fait chanter à la chorale de la Royale.
Délégation qui comprenait le porte-avions.
Le porte-avions, et ils ont chanté le God Save the Queen. Enfin, oui. On est vraiment...
Ça a l'air de la fiction, de la fiction tellement c'est énorme.
C'est-à-dire que même un fou furieux aurait écrit l'histoire d'aujourd'hui il y a 10 ans, il n'aurait jamais osé écrire une chose pareille. Et ben ça se produit. Alors, revenons-en au disque de Jean-Paul. Je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'écouter tout simplement...
Retourner la télé contre le mur, okay. Restez avec nous, écoutez-nous chanter.
Je sais plutôt parler.
En 1960, il y eut une tragédie encore plus terrible. C'est celle du 26 mars 1962. Cette image que vous voyez... Ce sont des pieds noirs, morts, blessés ou qui fuient. C'est sur une place centrale d'Alger, la Grande Poste. Ils étaient venus pour soutenir un quartier, Bab El Oued, qui était assiégé. C'était une manifestation pacifiste. L'armée française était là. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas par qui. Elle a ouvert le feu au fusil mitrailleur sur une foule sans défense qui chantait la Marseillaise, qui agitait des drapeaux français. Il y a eu 80 morts, 200 blessés. On parle beaucoup plus du Bloody Sunday d'Irlande qui a fait que 14 morts.
mais c'était pas en Algérie. Ce drame terrible a véritablement marqué la fin de l'Algérie française. On peut supposer qu'il était voulu. À partir de ça, les pieds noirs ont compris qu'ils étaient abandonnés de tous. Alors, ils sont partis. Ils laissaient ce pays qu'ils aimaient. Une population avec laquelle ils avaient vécu pendant 130 ans, qu'ils aimaient aussi. Ils sont partis. Après des heures interminables sur les quais pour attendre un bateau que le gouvernement empêchait de venir parce que les rotations avaient été freinées puis suspendues pour empêcher qu'un flot d'émigrés arrive en métropole et qu'on se rende compte que finalement c'était un échec. Alors quand ils sont arrivés, un ministre de l'époque disait qu'ils venaient là parce que c'était des vacanciers. Effectivement, ils en avaient l'air. Ce n'est pas Exodus, c'est Dunkerque, c'est vrai. On fuyait. On est arrivé ici dans un pays où nous n'étions pas vraiment acceptés. On est parti avec deux valises. Les chiens, il a fallu les piquer. On ne pouvait pas ne pas être complètement désappointé, brisé par ce qui nous arrivait. Et puis alors, après s'être entassé dans les cales de ces bateaux, après avoir passé ces centres d'accueil, voilà ce que nous avons vu à Marseille, où les pieds noirs étaient si nombreux. Voilà ce que disait le maire de Marseille à l'époque, le 6 juillet 62, que les pieds noirs aillent se réadapter ailleurs. Alors on est parti, c'est vrai. On est parti. On est parti, on a passé le nord de la Loire. Pour nous, on allait vers le froid. Et nous qui n'avions jamais connu le froid, en plus de l'indifférence, nous étions victimes du temps. Et puis, il a fallu se reconstruire, trouver des amis, chez les jeunes surtout. C'est dans les écoles finalement, c'est chez les adolescents que s'est développée la première solidarité. Et puis peu à peu, tout ça s'est transformé. On s'est installé ici. On vit, mais on se souvient toujours de là-bas, surtout de ceux qui sont restés là-bas, sous des croix, comme ma petite sœur. Ensemble, le pain de la misère. On a pleuré ensemble en traversant la mer. On a souffert ensemble en retrouvant la terre. On évoquait ensemble nos souvenirs hier. Jamais l'un n'a laissé l'autre seul dans l'ennui. Jamais l'autre n'est parti, laissant l'un derrière lui. Nous avions tous les deux fait le même serment. Puis tu es tombé et soufflais pas se levant. De l'histoire. Aujourd'hui, je suis là, je regarde ta tombe. Et devant cette croix qui couvre de son ombre le petit tas de terre, les quelques fleurs séchées, je me dis que Jamais. Jamais. Jamais je n'oublierai. Je ne mange plus maintenant le pain de la misère. Mais je souffre bien plus en regardant la mer. Car je suis seul ici, étranger dans la ville. Il fait froid, il fait gris sur cette terre d'exil.
Oui, alors c'est moi, ce qui me frappe quand j'entends ça, c'est que c'est de la qualité des grands chanteurs d'aujourd'hui, enfin des grandes vedettes.
Les musiciens surtout qui m'accompagnent.
La musique est belle. Ah, oui. C'est toi qui compose la musique ?
C'est moi, oui.
Et alors on se dit quand même, c'est incroyable parce que tu représentes quelques centaines de milliers de rapatriés. Enfin, tu t'adresses à quelques centaines de milliers de rapatriés, à leurs enfants, à leurs petits-enfants.
Oui, enfin, au-delà. Ceux qui sont intéressés par l'histoire de France aussi, parce qu'il y a...
Ça représente probablement des millions de clients potentiels, enfin, pour parler...
J'anticipe votre question et j'y réponds. Il ne veut pas faire d'ombre à Georges Frêche, qui chante les Africains à la tribune du conseil régional.
On ne va pas lui faire reproche.
Mais non, ce qui m'étonne même, c'est qu'il n'y ait pas une grande boîte de disques qui dit, écoutez, on va... Là, il y a du fric à faire pour parler comme par ces gens-là.
Oui, en restant dans le... Oui.
Donc, ou alors c'est à haricots que vous ne voulez pas faire d'ombre.
Tu as eu des contacts avec des grandes boîtes de...
Non,
des grandes maisons de production?
Non,
tu
mais ça remonte, cette fameuse chanson qui a fait bondir tout le monde lorsque je chantais en... Dans les années 80, quand j'expliquais qu'il y avait un mur à Berlin et que c'était terrible ce qui se passait de l'autre côté, tout le monde trouvait, enfin tout le monde, dans le showbiz et dans les médias, la réaction a été immédiate en disant ce type est en train de faire une propagande et parce que à l'époque le mur était simplement destiné à décorer l'Allemagne.
Non, empêcher tous les gens de l'Ouest de passer à l'Est.
Le
paradis, parce que
voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est resté comme ça. Mais je dois dire aussi que c'est jamais été vraiment mon métier. Et puis à cette époque-là, c'était pas mon métier du tout. Donc j'étais journaliste pendant 30 ans. Donc c'était une façon de m'exprimer par la musique et par une façon de sortir un peu de ma vie quotidienne. Et puis en même temps de toucher une autre génération. Et de donner surtout à des gens qu'on ne chantait pas. Aux soldats notamment. De leur donner quelque chose qui puisse écouter et de savoir qu'on pensait aussi à eux. Et je reçois sur mon site des messages assez étonnants il faut voir les variétés de générations, quoi. Il y a des jeunes soldats aujourd'hui de 20 à 22 ans, 23 ans qui m'écrivent en me disant je vous ai découvert il y a un an au cours d'une marche de nuit. Et un autre message, un parachutiste me dit, moi je vous ai écouté à Beyrouth au moment des combats en 1982. Non mais je veux dire que c'est les disques continuent à vivre et les chansons sont toujours présentes parce qu'elles ne touchent plus l'actualité, quoi.
J'ai pas entendu l'adresse de votre site et peut-être que les auditeurs non plus. Si vous voulez davantage,
oui, c'est mon prénom, c'est jean-pax.com. Jean-Pax.com, voilà.
Je vous exprime ma satisfaction d'entendre Jean-Pax Meffray. Malheureusement, ceci est rarissime. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Jean-Pax est un personnage rare. Il y a une question très intéressante. Je ne comprends pas que vous puissiez continuer à être patriote français. L'affaire de la rue d'Isly aurait dû vous éclairer sur ce que vaut la France en général et l'armée française en particulier.
Ouais, à ce sujet-là, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il faut dire une chose, c'est que bien avant le 26 mars, je n'étais pas là, moi, je n'étais plus en Algérie. On m'avait rapatrié un peu plus tôt. Le gouvernement m'avait rapatrié.
Oui, il t'avait hébergé.
Il m'avait hébergé ailleurs, oui. Mais bien avant ça, à la fin du putsch, il y a eu dans toute l'Algérie, un peu partout, des gens qui brûlaient le drapeau français. Les pieds noirs qui brûlaient. Et moi, ça m'a fait mal parce que c'est pas c'était un gouvernement qui était là de passage et c'était pas la France qu'il fallait, donc l'amour qu'on peut porter à son pays n'a rien à voir avec les erreurs des gouvernements successifs. Donc c'est pour ça que je continue à chanter la France et pas seulement la France. Je m'attache plus maintenant au problème de société. Le nouveau disque que je suis en train de préparer, qui est en même temps Contre la pensée unique, c'est un disque qui s'adresse plus particulièrement aux adolescents.
Mais oui, c'est ce qui est intéressant, c'est que on l'entend dans ce disque-là. Tu t'es donné pour mission, en quelque sorte, de t'adresser aux adolescents, aux jeunes, en leur disant voilà ce qu'on vous raconte dans les médias officiels, à l'école et tout, c'est peut-être pas exactement toute la vérité.
Oui,
peut-être,
oui.
Il y a peut-être une autre lumière à apporter là-dessus.
C'est ce que je dis un peu dans la chanson des Harkis.
Voilà,
il y a des grands silences qui entachent l'histoire de France et qu'on met de côté et dont on ne parle pas. On tire un trait là-dessus et alors modestement avec ma guitare et ma musique et mes chansons, j'essaie de laisser une petite trace quoi pour alors, cette jeunesse.
Justement, on va écouter. Tu parles des Harkis. On va écouter là ce que tu veux dire des Harkis, ce que tu as dit ce soir-là à propos des Harkis. Je sais que c'est un sujet très difficile, Harkis, parce que eux-mêmes ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer qu'ils soient.
C'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins.
Il y en a de moins en moins, c'est vrai. Leurs enfants, parfois, sont un peu décevants aussi.
Non, et puis il faut savoir, les Harkis, c'était comment tout ça s'est constitué. Bon, lorsqu'on parle des Harkis, bon, est-ce que ce sont les supplétifs, mais maintenant, ça s'étend un peu plus, mais chez les Harkis, il y avait des gens qui venaient volontairement servir la France. Il y en avait d'autres qui étaient des rebelles,
ralliés.
Ils ont vécu quand même des situations abominables. Il faut dire que quand ils sont arrivés, les quelques milliers qui ont pu échapper au massacre, nous on n'a pas été accueillis à bras ouverts.
Et malheureux.
Mais eux, alors c'est encore pire. C'est ce que moi quand j'en rencontre quelques-uns, souvent c'est difficile de retenir ses larmes. Moi, j'ai rencontré dernièrement dans une ville de province comme ça un garçon que je connais depuis toujours et qui me disait. On pense la même chose tous les deux, mais la chance que t'as, c'est que toi t'as les yeux bleus et moi regarde la tête que j'ai, quoi. Et il dit, et quand on regarde, c'est pas mes décorations au revers de ma veste qu'on regarde, c'est uniquement la sale gueule. Il dit, pour mes enfants, je suis un traître et pour.
C'est ça. C'est ça le drame, c'est que.
Et pour le pays, j'existe pas, quoi. Et c'est ce que je raconte dans la chanson des Harkis et en.
Alors on va écouter la présentation que tu en fais, et puis la chanson elle-même qui est très belle, vous allez voir. Il y a un petit problème technique, je pense, non? Il n'y a pas de problème technique, il y a un problème. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas de message? Ah oui, si un auditeur nous dit les pieds noirs votent à gauche pour une bonne partie d'entre eux. Je ne sais pas si on peut dire ça. D'autre part, je crois que c'est un problème différent. C'est-à-dire, on vote comme on veut parce que la droite, tout ce qu'on appelle la droite, n'a pas été bien plus gentil, si j'ose dire, ou bien plus reconnaissant à l'égard des rapatriés. Et puis les pieds noirs, ils peuvent quand même pas oublier que celui qui les a foutus à la porte, c'est pas le régime socialiste, c'est bel et bien De Gaulle. Et aujourd'hui, la droite, c'est les héritiers de De Gaulle.
Non, mais c'est ça, d'ailleurs. Et puis c'est justement cette ambiguïté qu'il y a sur l'histoire de l'Algérie, de la même façon quand on parle de la torture et quand on revient à parler les socialistes qui sont les premiers à parler de la torture, il faut pas oublier que c'est sous les socialistes que la torture a existé. Et il faut pas oublier non plus que c'est Mitterrand qui a envoyé que c'est Guy Mollet qui a envoyé l'armée en Algérie, et c'est Mitterrand qui était qui a dit la seule négociation c'est la guerre. C'est fini, ça disparaît de la mémoire collective.
C'est ce que Roger Hollande ne cesse pas de répéter. Il dit, moi là-bas, ils m'ont envoyé, ceux qui m'ont envoyé faire la guerre, c'est les socialistes, c'est pas l'extrême droite.
Tout à fait.
D'ailleurs, je signale qu'il sera, puisque je parle de Roger, il sera dimanche à Villepinte Villepreux. Tu viens pas, toi, à Villepreux, tu n'y es pas.
Non, par contre, il vient à la librairie française libre samedi après-midi.
Samedi, voilà. Donc, il sera, Roger sera dimanche après-midi à Villepreux. Wissingra, son dernier bouquin, qui est un bouquin que je vous recommande. On fera une émission dessus, mais je le recommande dès aujourd'hui. C'est un bouquin formidable sur le travail de désinformation et de démantèlement des intelligences telles qu'il est pratiqué depuis des années en France. Il a fait vraiment un boulot formidable.
Serge, on a annoncé une chanson aux
auditeurs. Oui, on va l'écouter, voilà.
Donc, c'est cette chanson sur les harkis, justement, c'est une chanson avec un peu de recul, parce que c'est les enfants d'un harki mort là qui sont autour de lui, et c'est une scène, quoi, en fait, que c'est un peu,
je vais faire un
reportage.
C'est un peu, c'est ça, non,
oui,
toute proportion gardée, c'est la famille autour.
Un petit peu, oui, tout à fait.
Autour de la dépouille du patriarche.
Je vous disais que ce mur, ce bloc qui a éclaté, cette liberté qui... Et puis dans le flot des rapatriés d'Algérie, il y avait aussi ceux dont on ne parlait pas, parce qu'il fallait les rayer de la carte. C'était les musulmans qui avaient choisi de s'enrôler dans l'armée française, les harkis. Jean Berbère est venu déranger la ville, une prière chantée par trois jeunes kabyles. Jean Berbère, pour saluer l'ancien soldat, fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo de ses copains en uniforme, une vieille image qu'il a conservée toute sa vie, comme un hommage à ceux qui sont morts dans l'oubli. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle fait partie des grands silences qui entachent l'histoire de France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Souvent la nuit, y retrouver en mauvais rêve, le sang, les cris, les plaintes des harkis qu'on achève face au calvaire des soldats restés l'arme au pied. L'ordre était clair, il ne fallait pas les sauver. Et cette histoire ne raconte pas tous les jours. Elle dénonce les grandes souffrances de ceux qui ont choisi la France. Et cette histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Le cessez-le-feu du 19 mars 62 n'a pas fait cesser le sang. Dans les semaines qui ont suivi les accords d'Évian, des dizaines de milliers d'Algériens qui avaient fait confiance à la France furent abandonnés, condamnés à la mort lente dans les djebels de la tourmente. Sur les 200 000 harkis engagés dans l'armée française, seulement 40 000 d'entre eux purent rentrer en France, souvent grâce à l'assistance d'officiers français qui avaient enfreint les ordres. Il fut parqué avec femmes et enfants dans des baraquements sordides, dans des camps grillagés de barbelés. Certains y sont encore. Cette histoire, on ne raconte pas tous les jours. Elle demande la reconnaissance
de ceux qui ont cru en la France, une façon de saluer cette bravoure. Ce chant berbère, faut qu'il ne soit qu'un chant d'amour, un chant d'amour.
C'est curieux comme il y a des sujets qui sont comme des dents dont l'émail a été gratté. À peine on touche, pouf, ça provoque des hurlements. Alors je parlais des harkis, j'ai dit, certains harkis ont fait ci, et certains fils de harkis ou filles de harkis ont fait ça. Alors, immédiatement, Bernard Coll me saute au cou, ce qui est normal, enfin me saute au cou, m'attrape par le col plutôt, et me dit, pour mieux connaître les harkis, il faudrait que tu les invites, et que tu invites ceux qui les défendent. Mais je l'ai déjà fait, Bernard, tu le sais mieux que tout le monde. Je ne méconnais pas les harkis, j'ai pour eux la plus profonde sympathie, mais pour ceux qui sont restés dans la ligne, les autres, bon, je les comprends, je les excuse, d'ailleurs ils n'ont rien à faire de mes excuses ou de ma compréhension, mais je n'ai pas dit les, j'ai dit des. Et de même, un auditeur dit, en quoi les harkis et leurs enfants ont-ils été décevants? C'est pas les harkis et leurs enfants, je répète, certains, avec toutes les excuses qu'on peut imaginer, ils ont été écœurés, ils ont été blessés, ils sont exactement comme les pieds noirs qui brûlaient des drapeaux français, c'est le même comportement de rage désespérée. Bon, voilà. Et je n'accuse pas les harkis. D'ailleurs, encore une fois, qui suis-je pour les accuser? Je dis simplement que on a raté un train de l'histoire. C'est évident. On aurait dû les traiter avec considération, avec respect, et tout le respect que réclame la racaille aujourd'hui, c'est à eux qu'on aurait dû le donner.
Oui, mais si les traiter avec considération et respect, comme pour les pieds noirs, c'était en même temps reconnaître la faute.
Voilà.
Et à l'époque, la volonté du gouvernement en place était de rejeter au contraire aussi bien les pieds noirs que les harkis. Ça a été écrit dans des multiples livres, ça a été montré de temps en temps quelques images à la télé où on rejetait plus on faisait du pied noir et du harki une image diabolique et plus on justifiait le comportement du gouvernement de l'époque, quoi.
François Plantet dit que c'est l'abandon de l'Algérie, c'est le péché irrémissible que la France devra payer d'une façon ou d'une autre, et qu'elle est en train de payer aujourd'hui.
Oui.
Vous n'avez pas voulu de l'Algérie française.
Je veux dire un message. J'admire la personnalité de Jean Pax et aussi ses chansons, sa sensibilité et sa noblesse, que je trouve bien supérieure aux chanteurs actuels. Oui. Très content de l'avoir vu moi-même.
Oui. Merci. Oui, il y a un auditeur, une auditrice qui demande Jean Pax, oui, c'est Jean Trait d'Union Pax, c'est P-A-X, oui. La paix.
Salut, je me souviens quand on était à Minute, tous les deux, on était tout jeunes journalistes, et ça nous intriguait beaucoup ce prénom, ça nous paraissait un prénom d'un exotisme français, c'est curieux, exotisme français, mais c'était ça, Jean Pax. Alors, au début, on pensait que c'était Jean Max et qu'il y avait une faute de.
Oui, mais souvent, dans l'administration, on s'est souvent trompé. On m'a appelé Jean-Max, Jean-Paul. Non, c'est Jean-Pac.
C'est pas mal non plus.
Et pourquoi tu as une explication?
Et la suite, c'est Ange-Marie, parce que c'est la paix qui venait d'arriver, et puis parce que c'était aussi la.
Ah oui, tu es né juste après
la fin de la guerre. Et le, je suis né le 9 septembre, c'était la proclamation de la République qui repartait.
Ça, c'est moins bien. Enfin, bon.
Mais
c'est quand même mieux que de naître le 14 juillet et s'appeler Fête Nat.
Oui.
Et mon fils s'appelle bien Armstrong, deuxième prénom. Parce qu'il est né un an après la conquête de la Lune, et que moi j'étais un fanatique de ça. J'avais été en telle admiration pour le peuple américain qui était arrivé à poser des hommes sur la Lune que j'ai donné ce prénom à mon fils. Parce que, tu vois, on a des raisons comme ça.
Non, mais c'est un prénom qui m'a posé des problèmes, c'est plus qu'un prénom, c'est presque un nom, quoi.
C'est un programme,
Oui, enfin, à l'époque, peut-être pas vraiment. Non, en 62, c'était pas tellement ton programme.
Non, c'était pas mon programme.
On lui demande où on trouve ses 10 ses partitions.
Oui, alors, donc je répète encore une fois, pour me joindre, il suffit d'aller sur le site Jean-Pax.com Et là, vous pouvez vous promener sur le site, vous avez les paroles des chansons, vous pouvez commander les disques et vous pouvez même me laisser des messages auxquels je réponds. Et puis, samedi, je serai donc à la librairie France Livre, rue du Petit Pont à Paris.
6 rue du Petit Pont, métro RER Saint-Michel, sortie 3 Notre-Dame-Petit Pont, ce sera de 15 à 18h30. Et moi, j'ai conseillé au libraire, notre ami Jacques-Claude, de mettre des barrières de sécurité de prévenir le commissariat. Parce qu'il y aura Jean Pax d'un côté, Serge de Bekech de l'autre, et à mon avis, il y aura du monde.
Ouais.
On va voir. Si on fait un tabac. Oui, un auditeur nous fait remarquer que l'Angleterre vient de faire subir au Gurkha, magnifique arme d'élite aussi, un sort comparable à celui qu'ont connu les Harkis, puisque apparemment ils viennent d'être licenciés, donc le corps a été dissous, et les Gurkhas ont été priés de retourner à la vie civile sans indemnisation. Ils vivent dans une misère totale, nous dit cet auditeur. T'as entendu parler de ça?
Non, mais les Gurkhas étaient... C'est pas comparable.
Non, c'est pas comparable.
Les Harkis,
mais ce sont
des troupes, ce qui s'est passé, quoi.
Troupes indigènes, qu'on explique.
Il y a eu des choses abominables, les Harkis. Il y a des officiers qui commandaient les Harkis, qui les Harkis avaient confiance. Où les officiers sont venus leur dire, tiens, vous allez, avec tous les hommes, vous allez mettre vos armes ici parce qu'on va vous en donner des nouvelles. Et ils ont tous cru, ils ont déposé les armes, on leur a pas donné d'autres armes et on les a envoyées dans la nature. Enfin, c'est immonde. Ce qui s'est passé, c'est ignoble. Il n'y aura plus que le tribunal de l'histoire pour les juger.
Ça fait pas très longtemps qu'on en parle. Moi, je sais que j'en ai entendu parler pour la première, le massacre des Harkis. J'en ai entendu parler dans la bouche, je crois, sous la plume de Dominique Vénère pour la première fois il y a quelques années.
On l'a caché. Au procès de Bastien Thierry lui-même a fait une longue évocation du massacre des Harkis, puisque
il y a notre ami qui a écrit plusieurs bouquins, Ahmed.
Ahmed connaît pas Boinet.
Qui a fait qui lui a été vraiment, on peut dire, un des hommes qui a forcé la France à poser le regard sur son passé.
Il y a encore des endroits en France où il y a des Harkis qui, donc maintenant, ils sont les plus jeunes, ont 70 ans, 65, 70 ans. Ils sont encore dans des camps. J'ai vu un camp il y a deux ans, près d'Aix-en-Provence, où il n'y a pas de lumière, quoi. C'est quelque chose d'abominable. Alors, comment veux-tu que les enfants de ces gens-là, ou les petits-enfants, ne se révoltent pas? Alors, certes, beaucoup se sont révoltés, mais il faut dire aussi que certains ont réussi avec cette volonté de vaincre, et puis finalement cette éducation qu'ils ont reçue de leurs parents, parce que malheureux, miséreux, souffrants, ils ont quand même continué à donner aux enfants cette éducation qui leur avait permis à eux-mêmes de choisir la France. Et ces enfants-là sont devenus, ont réussi dans la médecine, dans l'administration, et ils ont donné quand même une preuve qu'ils n'étaient pas si rancuniers, qu'ils s'en voulaient. S'ils en voulaient à un gouvernement, ils n'en voulaient pas à la France.
Alors ton disque ne comprend pas que des chansons et des textes sur l'Algérie, mais non. Pour ce soir on va se limiter à ça, à cette partie de l'histoire. Ça me paraît un sujet de méditation assez riche.
Ouais.
Et pour terminer, donc contrairement, j'avais prévu de passer une très 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 belle chanson qui s'appelle Matin grisâtre, ouais, et qui est un hommage au tondu de la libération.
Je ne la passerai pas.
C'est un hommage. Pas un hommage. C'est pas
non,
le mot.
C'est pas un hommage au tondu de la libération. Je raconte un peu ce qui a motivé. Je n'essaie pas de trouver les explications, mais je décris uniquement ce qui s'est passé et comment ces gens-là ont été traités. Bien souvent, à tort, la plupart, c'était par des dénonciations. Enfin, on l'a su plus tard. Et ce sont des choses qui ont révolté d'abord les troupes américaines qui se trouvaient en France et qui ont révolté des hommes politiques et même les comités de délibération. Fillon qui expliquait ça, et ça a même révolté Luard. Alors c'était...
Alors donc ça, il faut, si vous voulez entendre cette chanson Matin Grisâtre, eh bien vous venez samedi, vous pourrez acheter le disque de Jean Pax à la librairie France Livre,
et vous le faire
dédicacer. Ex-librairie du Petit Pont, 6 rue du Petit Pont, et vous aurez même droit à une dédicace. Mais on va terminer donc avec une très belle chanson qui est une autre chanson culte
oui,
de
c'est
Jean Pax.
C'est une chanson sur le sur les soldats. En Algérie, sur le, les hommes du contingent qui sont partis en Algérie, qui sont envoyés par le gouvernement socialiste de l'époque, et ça n'a pas toujours été très très facile quand ils sont arrivés, parce que c'est vrai que des gens qui arrivaient de Normandie ou d'ailleurs et qui se retrouvaient sur le territoire algérien ou dans les montagnes se retrouvaient coupés de leur pays et de leurs racines, et ils comprenaient pas pourquoi ils venaient se battre pour soi-disant protéger les richesses des colons français, quoi.
J'ai une anecdote à ce propos. J'ai un ami juif qui, au moment où il a été appelé pour partir en Algérie, voulait absolument pas partir en Algérie parce que lui, il disait, mais moi, qu'est-ce que je vais aller me battre contre les Arabes? Je les connais pas, je les ai jamais vus, pourquoi? Et alors, sa mère lui dit, mais tu sais que en tant que juif, tu as le droit de faire ton service en Israël. Et donc, si tu veux pas aller en Algérie, t'as qu'à prendre la solution de faire le service en Israël. Donc, il dit, voilà, c'est une très bonne idée. Et il me raconte, et j'arrive en Israël, et là, on me colle un fusil. On met dans une orangerie, on dit s'il y a un arabe qui vole une orange, tu le butes.
Oui.
Donc il avait complètement raté son coup.
Alors que là, en fait, et puis on peut dire que la plupart des unités combattantes, à quelques exceptions près, quoi, mais c'était surtout des régiments parachutistes ou des régiments de légion étrangère. Il y avait quelques régiments d'appelés qui étaient au combat. Mais la plupart du temps, ils participaient à des opérations de sécurité dans les villages où ils étaient malgré tout confrontés aux attaques de l'armée de libération et à la mort.
Ah, mais c'était un traumatisme.
Donc c'est pour eux que j'ai écrit cette chanson pour leur rendre hommage. Il n'y a pas eu de chanson faite en France par des métropolitains sur les pieds noirs qui sont venus se battre en Italie ou en débarquer en Provence pour remonter jusqu'en Allemagne. En revanche, moi, j'ai pensé qu'il fallait en faire une pour ces métropolitains qui sont venus finalement pour nous en Algérie.
Elle s'appelle Djebel Amour.
Et puis après l'Indochine, vous connaissez la suite parce qu'elle est plus récente. Ce fut l'Algérie. En 1954, on envoya en Algérie des milliers d'appelés qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire là-bas. Ils y allaient simplement parce que le gouvernement socialiste de l'époque avait dit « La seule négociation, c'est la guerre. » C'est Mitterrand qui disait ça. 2,7 millions de personnes partirent en Algérie pour une guerre qui ne finissait pas. Parmi eux, des tas d'appelés du contingent qui ne connaissaient pas ce pays, croyaient qu'ils venaient se battre pour assurer nos richesses. Lorsqu'on est parti en juillet 62 avec deux valises, on s'est rendu compte que les colons n'étaient pas si nombreux que ça en Algérie. Beaucoup de métropolitains ont donné leur vie sur ce sol qui s'était pris à aimer. Mais c'est à eux que je dédie cette chanson. En ce temps-là, dans un village loin d'ici, jeune soldat, il avait un peu peur pour sa vie. Drôle de bidasse, avancé dans le djebel, il tremblait pour sa carcasse devant le fusil des rebelles. Sur le quai d'une gare, certains chantaient le déserteur à Saint-Lazare. Lui, il avait l'esprit ailleurs, il regardait
une femme et son petit garçon qui ne comprenaient pas les mots de la chanson. Alors, il pose sur la table une rose des sables. Il a le cœur lourd, car tous les souvenirs l'enchaînent, les souvenirs l'entraînent à ce djebel amour. Ça fait longtemps qu'il est revenu d'Algérie. Il y a des moments qui marquent à jamais une vie et quelques soirs. Quand il traîne un peu au comptoir, il peut pas s'empêcher de raconter son histoire pour ses enfants. C'est un mot qui ne veut rien dire pour ses parents. C'est un bien cruel souvenir pour ses amis. C'est une carte de combattant, mais ça reste pour lui 36 mois, 20 ans. Alors, il pose sur la table une rose des sables et il a le cœur lourd. Et tous les souvenirs l'entraînent, les souvenirs l'enchaînent à ce djebel amour. C'est une fille au bout d'un quai, un pays qui s'en va, un cadeau emporté. Ce n'est qu'une rose des sables qu'il pose sur la table quand il a le cœur lourd. Et tous les souvenirs l'entraînent, les souvenirs l'enchaînent. Ce djebel amour.
On va pas nous accuser de rigoler.
C'est une belle chanson. Ouais, hein.
Je voudrais acheter les disques de Jean Pascal Mexfray et je n'ai pas internet. Alors je fais comment pour avoir ces disques?
Bah, il faut venir samedi à France Livre, là, c'est à partir de...
Samedi ou après,
mais en fait, ou après à France Livre.
Les disques vont y rester. Ouais.
Mais si j'habite à Marseille ou à Tokyo, c'est une colle.
Il n'a pas internet, mais il a sûrement un ami qui a internet.
Ou alors il a un timbre et une enveloppe, et il écrit à la librairie France Livre, vous croyez qu'il lui...
Oui, bien sûr.
Ils lui répondront.
Oui, oui, tout à fait.
Jacques le répondra, ça c'est
enfin,
certain.
Enfin, c'est bien.
Moi qui suis pas pied noir, je voudrais lire un message qui dit « Je suis pied noir et à chaque fois que j'entends une émission comme celle-là, je chiale. Je coupe mon poste et je vous embrasse. »
Bah, s'il coupe le poste, alors ça va se rater complètement.
Oui, bien sûr. Vous pouvez pas tout comprendre.
Ouais, c'est beau, hein.
Ah oui.
Il a du talent, ce garçon. Si le petit cochon ne mange pas...
Oui, mais là, c'est fini, je crois. Je suis moins tendre.
Tu disais que tu préparais quand même un nouveau disque.
Je prépare un livre et un disque.
Pour quand?
Le disque, c'est pour le premier trimestre, là.
Ah oui.
Une chanson sur la pensée unique qui est amusante. Une chanson sur le scandale du sang contaminé. Il y a, enfin, c'est des chansons qui touchent la
culture. Journaliste.
Des chansons reportage, oui.
Ouais. Merci Jean-Paul d'être venu.
Ben, merci
plaisir
à vous.
De vous avoir reçu. Puis donc, on se retrouve samedi après-midi.
Avec plaisir.
À la librairie France Libre à partir de quelle heure? 15h?
15h à 18h30.
15h à
18h30. Notez-le, messieurs.
surtout ceux qui signent.
Voilà. 15h à 18h30.
Merci infiniment d'être venu nous voir. Puis on se revoit pour le prochain disque.
Ben, avec
et
plaisir.
Pour le prochain livre aussi.
Merci beaucoup. Au revoir.
Alors, on change...
Où peut-on se procurer ces disques magnifiques, hein, la question
on vient de le dire.
Avec tous les remerciements des anciens combattants appelés en Algérie. Ça, c'est vrai que...
Mais c'est vrai qu'il y était, là, notre marquis. Là. Il était dans l'armée à cette époque-là.
Oui, mais moi, je ne suis pas parti en Algérie.
Il était peut-être un peu en prison aussi.
Voilà.
Quelle drôle d'idée d'aller manifester sa sympathie pour une cause perdue quand on est militaire.
Tout ça, on va vous les donner dans le...
Voilà. Merci. Mon cher Daniel, d'abord je voudrais vous remercier de votre patience. Est-ce que vous qui êtes mélomane, comme chacun sait, est-ce que vous appréciez les chansons de Jean-Pax Meffray?
Oui, et particulièrement pour leur harmonie et leur calme.
Oui, ça, ouais, ça c'est vrai que c'est...
C'est vrai ça.
C'est,
ouais.
C'est ça, des change, belles mélodies, ouais. Et ouais. Ça ne crie pas. Voilà.
Mais le personnage est calme aussi.
Oui, oula.
Oui, non, mais...
c'est comme les volcans d'Auvergne, quand ça se réveille, il y a intérêt à déménager vite fait. Daniel Raffard de Brienne, là des informations. Alors c'est le troisième.
C'est le troisième.
Le premier c'était le Saint-Suaire.
Sur Saint-Suaire.
Le deuxième c'était
le deuxième Jésus et Marie.
Jésus et Marie. Et là
avec
c'est
avec une bonne pensée pour Jacques Duquesne, bien sûr.
Oui.
Et là
Jacques Duquesne qui n'a rien à voir avec Duquesne Diffusion, il faut le
non,
dire.
Non, certes non. Et je ne crois pas qu'il ait envie lui de me diffuser.
Et donc, dans cette collection, l'Étoile du Berger, dirigée par Benoît Mancheron, vous publiez la désinformation autour des origines de l'homme.
Voilà.
Alors, moi, c'est un, comme je suis créationniste, comme chacun sait,
oui,
ou comme enfin, je, pas chacun discuter, sait, mais moi je le sais, et c'est quand même un livre qui m'a enchanté, ne serait-ce que pour la première phrase. Un conte de fées pour grandes personnes, c'est ainsi que le célèbre biologiste Jean Rostand définissait l'évolutionnisme. Voilà, ça suffit à mon bonheur. On peut lire la suite, mais...
Oui, ça, on peut, fins, on peut, oui, c'est même
recommandé. C'est pas trop long, parce que c'est un livre qui fait 60... Enfin,
voilà.
C'est un petit livre qui fait 60 pages. Et alors, qui a la signature éditoriale Mancheron. C'est-à-dire, ouais. Très joli travail d'édition, comme on disait tout à l'heure à propos du livre de François-Marie Algou, joli papier, joli graphisme, joli caractère, joli police de caractère, c'est joli, très élégant.
Joli
c'est,
dessin.
Alors le dessin, qui est l'auteur de ce magnifique dessin?
Mais moi.
Oh, Daniel Raffard de Brienne, qui est un homme proté, qui écrit et qui dessine. Il a d'ailleurs fait un portrait de Titan craché, puisque cet après-midi, j'avais un ami à la maison qui m'a dit « Ah, mais c'est Titan que Daniel a dessiné. » Je pense plutôt qu'il avait reconnu le ventre du maître de Titan sur le dessin.
C'est alors, SDB promenant son molosse.
Donc, ce livre fait le point sur le conte de fées pour enfants qui est l'évolutionnisme.
Qui est l'évolutionnisme, oui.
Où en sommes-nous, où en sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, qui sommes-nous, et tout autre.
Et dans quelle étagère?
Et dans quelle étagère? Et dans quelle étagère?
Oui, j'avais déjà fait un livre sur l'ensemble de l'évolutionnisme, qui comportait d'ailleurs toutes les références que je n'ai pas reprises ici. Ça, c'est un livre de combat. Légèrement ironique, je crois.
Oui, alors, c'est que, comme ce que vous faites très très souvent, c'est vraiment très drôle. Et puis, mais ça pose des questions d'une façon drôle, mais des questions définitives. Par exemple, ce que j'aime bien, c'est l'évolutionnisme est fondé sur l'idée que tous les êtres vivants, animaux et végétaux sont issus d'ancêtres communs. Etc., etc. Et que certains, et que donc ils se survivent et en se perfectionnant, ils progressent donc, et c'est ça l'évolution. Et alors Daniel Raffard de Brienne dit, bon d'accord, je veux bien, mais alors pourquoi certains membres d'espèces très anciennes survivent-ils inchangés alors que leurs congénères n'ont pas cessé de se modifier? Pourquoi les sélacanthes continuent-ils à nager tranquillement sans changer d'une écaille alors que d'autres auraient été le grand-père de l'éléphant ou du colibri?
Exactement, de plus ils auraient dû être éliminés par la sélection naturelle.
Mais oui. Bien sûr.
S'ils s'obstinaient à ne pas changer.
Ou alors,
on ne sait pas très bien pourquoi, d'ailleurs, ils s'obstinaient.
À moins qu'ils n'aient été, dès le départ, des créatures parfaites, ce qui serait une preuve supplémentaire de l'existence de Dieu.
Il y a eu un livre fait par mon ami Georges Salé et le père de Claire Lafont sur l'évolution régressive, en prenant ce qu'on appelle les preuves, plus exactement les légers indices de l'évolutionnisme. Eux, ils ont bâti la théorie inverse. En expliquant que tout était parfait au départ, et depuis, il y a une régression.
Ça n'a pas cessé de se déglinguer.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il disait? Tout a mal commencé, tout s'est toujours mal passé. C'était Baril, je crois. Tout a toujours très mal fini. Voilà. Et donc, si ça finit mal, c'est que, à mesure que ça évolue, ça va vers le pire. Alors, je pense publier dans le prochain numéro du Libre Journal une photographie qui, à mon avis, est la preuve définitive de l'affirmation selon laquelle non seulement l'homme ne descend pas du singe, mais c'est bel et bien le singe qui descend de l'homme.
Il y a eu un
et je rassure, c'est pas une photo de Madame Alibi.
Il y a eu un livre là-dessus. Non, vous avez peut-être pris des photos du côté du métro, non?
Pas du tout.
Vous écoutez Radio Courtouette.
Non, l'homme descend dans le métro, c'est autre chose. Le singe, non. Enfin, sauf accident.
Marquez, il y a une chose, mais une réflexion qui n'est pas là, que je me suis faite hier. Ouais, c'est tout nouveau.
Donc elle n'est pas dans le livre?
Non, non. Et je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je me suis dit, il est certain qu'il y a une grosse ressemblance anatomique entre l'homme et le singe. Et cette ressemblance est plus ou moins marquée suivant le degré du singe. Mais quel que soit... Donc on pourrait penser, si on est évolutionniste, que finalement, bon, quand on arrive au gorille, on est tout près d'arriver à l'homme. Oui, mais le gorille n'a aucune trace, ni d'intelligence, ni de volonté libre, qui sont les caractéristiques de l'homme. Et il n'en a pas plus que le chimpanzé ou la souris.
Il y a quand même des exemples qui vont un peu à l'encontre de ce que vous dites, parce que je me souviens d'avoir été très intéressé par une expérience qui a été faite avec des chimpanzés, des femelles chimpanzés, une femelle chimpanzée à qui on a appris le langage des muets, le langage des signes, et qui signait donc, comme on dit, quand elle voulait quelque chose. Si elle voulait boire, elle faisait le signe boire.
Oui, bien sûr. Mais
elle a inventé un mot, et c'est ça qui m'avait beaucoup frappé. Ah, enfin, c'est ce que racontaient ses éducateurs. Il disait qu'un jour, son formateur, lui tend une pomme. Et elle tend la main pour attraper la pomme, et à ce moment-là, il la retire. Donc elle n'était pas contente. Il retend la pomme, elle tend de nouveau la main, et il retire la pomme. Et là, la guenon a commencé à s'énerver, il fait ça une troisième fois, et il retire donc pour la troisième fois la pomme. Et à ce moment-là, la guenon, folle de rage, lui fait deux signes. Homme et sale. Sale homme. C'est-à-dire que d'une part, elle avait inventé quelque chose sale pour elle, c'est quelque chose de pas bien,
Peut-être que oui, peut-être que non, ou bien trouver qu'on avait déjà fait le coup à Ève, il fallait pas recommencer. Non, parce que les animaux aient une mémoire, qu'ils aient des passions, qu'ils aient des possibilités d'adaptation, oui. Mais ils n'ont pas de possibilité d'abstraire.
Il n'y a pas de libre arbitre, en tout cas, chez les animaux, on peut
Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de volonté libre. Si un animal ne mange pas, c'est qu'il n'a pas faim. On n'a jamais vu un animal faire le carême ramadan. Et de même...
Si, ramadan. Enfin bon, c'est une autre question.
Oui, pas volontairement. Vous piétinez, mon bon, vous piétinez. Je vous envoie dans le métro, moi.
Alors, là, c'est Patrick qui me fait dire des bêtises. Parce qu'il me regarde d'un air tellement mauvais que je finis par m'égarer. Donc, je vous rends la parole, pardon, après ces bêtises.
Je la reprends par conséquent, pour dire je ne sais plus quoi.
Mais vous disiez que
Écoutez, de toute manière, moi, je vais vous dire. On vous dit qu'il y a des animaux intelligents. Bon, moi, je veux bien. Mais je demande où est leur civilisation.
Attendez, je voudrais revenir sur la question précédente. Excusez-moi, mais quand vous nous dites on n'a jamais vu un animal faire carême, la légende dorée des saints est pleine d'anecdotes qui disent, en tout cas s'ils ne faisaient pas carême, ils écoutaient les prônes ou les sermons de saint Antoine, chassé d'une ville où il voulait prêcher, va prêcher aux poissons, et tous les poissons sortent la tête de l'eau pour écouter.
Oui, on a raconté ça. J'écris deux vies de saint Antoine de Padoue.
Vous êtes en mesure d'accréditer cette...
Pas du tout, c'est une légende.
Vous êtes un sceptique, alors?
Oui, je suis un sceptique.
Ouais, alors moi, ça marche pas, là.
Je le sors, chef.
Je suis un sceptique, c'est d'ailleurs pour ça que je suis tellement intéressé par le Saint-Suaire, la Sœur de Turin, parce qu'il résiste au scepticisme des gens de bonne foi.
Alors, vous savez que le film auquel vous n'avez pas été invité à participer, après qu'on vous ait contacté, le film de M. Alfonsi, consacré au Saint-Suaire, ou plus exactement qui tourne autour du Saint-Suaire, devrait sortir dans la dernière semaine, au moment de Noël, comme par hasard.
Je ne sais pas si c'est vraiment le même, parce qu'il y a plusieurs projets.
Ah, c'est celui d'Alfonsi, c'est certain. C'est celui pour lequel vous aviez été contacté. Et puis après, on a pu juger qu'il n'était pas absolument indispensable que vous fassiez donner votre avis.
Oui, tout à fait. Et je sais qu'il s'était engueulé. Je l'ai pris ici, d'ailleurs, qu'il s'était engueulé. Et ils avaient passé le relais à cinéaste de Toulouse, auquel j'ai tout de suite téléphoné pour offrir mes services, comme d'habitude. Il a envoyé mon petit bouquin, les informations autour du linceul de Turin, comme d'habitude. Et puis, 15 jours après, je lui ai téléphoné, je dis alors... Alors, non, j'ai téléphoné. 15 jours après, je tombe sa secrétaire. Ah, monsieur, je ne sais plus son nom. Monsieur ne peut pas vous prendre, il est au téléphone, il est très occupé. Mais il vous rappellera d'ici peu de jours. Je lui ai dit, écoutez, dites-lui bien qu'il se rappelle rapidement, parce que je suis en train d'écrire à, alors, petite musique, grosse société, mais au président directeur général d'une énorme société américaine qui finançait le tout, et ça ne devait pas le savoir, et moi je le savais. Alors, donc, j'écris à ce bonhomme. Alors, ah, écoutez, vous avez de la chance, il vient juste de raccrocher le mot de passe. Alors, j'ai écrit au bonhomme, ce qui n'a pas dû l'encourager à cette énorme maison américaine, qui n'a pas dû être qui est très maçonnique, qui n'a pas dû être encouragé à continuer. C'est pour ça que je pense que ça sera vraiment le même. Le premier, j'ai saboté à Paris, c'est sûr. Toulouse, j'avais l'impression d'avoir assez bien saboté. Bon, enfin, on verra.
Alors, en fait, il y a un film, donc, qui doit sortir sur cette affaire. Alors, naturellement, ça repose sur
le
bouquin de Kovler sur le... Le clonage et
je l'ai pas encore lu, mais je ne sais pas si je pense qu'il évoque le clonage. Je ne pense pas que ce soit le fond. Oh, mais c'est très compliqué. Vous avez les vrais amis, les vrais ennemis, et les crétins. Et qui sont, je crois, on pense, la majorité.
C'est les plus dangereux, en plus.
Oui. Et alors, parce que le clonage est une imbécilité. Le clonage du Christ à partir des traces de sang, c'est une imbécilité. Non, c'est d'abord un blasphème, c'est une manière de... je crois que la prochaine offensive qui commence à se développer, c'est admettre l'authenticité du Saint-Suaire, mais refuser la divinité du Christ. Donc c'est vraiment un homme, et je crois que le côté écrit dans le point, qui était d'ailleurs opiumane et avait des morpions.
Oui, absolument. La drogue, on avait fait un papier dans le livre journal.
C'est extraordinaire.
Pour expliquer que
Et alors, quand on parle de clonage, faut être sérieux. Comment voulez-vous cloner un être vivant à partir de quelques cellules mortes? La vie, c'est quelque chose, tout de même.
Probablement, c'est tout le problème du professeur Frankenstein, de faire vivre quelqu'un avec des cellules mortes.
Alors revenons à nos ancêtres qui sont descendus des arbres.
Alors justement, le gorille n'a pas d'intelligence, nous dit un auditeur, mais il a beaucoup de bon sens, confère la chanson de Georges Brassens.
Ah, ça peut-être. Je ne sais pas si Georges Brassens a eu beaucoup de bon sens.
En tout cas, si j'étais le juge d'Outreau, j'éviterais de visiter le zoo de Vincennes, parce que si je me souviens bien, le petit juge de la chanson de Brassens, il lui arrive des choses...
Ah oui,
que d'aucuns pourraient considérer comme désagréable, mais est-ce que c'est le cas du juge d'Outreau?
Je ne sais pas, ça dépend de nos jours.
Mon avis est généralement partagé.
Oui,
votre assistante est déchaînée.
Oui. Alors, un peu de sérieux. Oui. M. Raffard de Brienne accepte-t-il l'idée courante aujourd'hui que la vie... Ah, alors là, que la vie, c'est de l'infini.
Oui, c'est moi j'avais lu ça, oui.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Je ne comprends pas non plus. C'est pour ça que je disais sérieux, parce que je me suis dit, si je ne comprends pas, c'est que ça doit être très sérieux. Ben alors, apparemment, je ne suis pas le seul.
Au club.
Avez-vous des informations sur Création Parc, Parc à thème, sur le créationnisme, pour lequel un groupe d'évangélistes investit, paraît-il, 25 millions de dollars dans le Kentucky?
Alors ça m'inquiète un petit peu. Ça ne m'inquiète pas, je ne suis pas inquiet pour eux. Mais si sur le plan du sérieux, je suis absolument contre l'évolutionnisme, pour une raison très simple, c'est que rien ne le prouve, et au contraire, tout prouve qu'il n'a pas existé. C'est très simple. Alors, il y a un certain nombre d'apparences qui ont permis à Darwin de sortir sa théorie, au fond, pourquoi pas. Seulement, voilà, c'est que toutes les recherches depuis ont contredit. Donc l'évolutionnisme est une explication fausse. Et vouloir faire sortir de la vie, alors c'est ce que je mets dans mon petit livre, il y a quand même un certain nombre d'obstacles pour faire sortir la vie de la matière brute.
Je crois que c'est ce que vous voulez
dire. Et si la matière brute vient du fameux Big Bang, qui est possible d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait Bang? Il y a donc encore quelque chose d'antérieur. On est obligé d'admettre qu'il y a au départ une création.
Un acte
créateur de quelqu'un qui est en extérieur au monde matériel, forcément.
Mais sinon, on vous demande tout de suite qui l'a créé et quel est le père de l'horloger.
Oui, ça, vous êtes voltairien, vous êtes pire que sceptique.
Non, je me fais l'instrument des quelques rares auditeurs qui pourraient se permettre d'objecter.
Justement, non, le problème, c'est que justement, il est éternel, c'est-à-dire en dehors du temps. Éternel, c'est pas un temps infini, c'est en dehors du temps.
Alors, je commence à comprendre pourquoi petit séminaire de Paris, quand malencontreusement je posais la question, mais mon père, mais qui a créé le Big Bang? Et à chaque fois, je me ramassais des heures de colle.
Et maintenant que vous ramassiez pas une claque, une Big Bang.
J'avais 11 ans, je posais alors le Big Bang. Bah d'accord, ok, c'est très bien, mais qui a fait le Big Bang?
Au coin.
Au coin.
On pourrait admettre un évolutionnisme dirigé par Dieu, mais alors on n'a rien qui puisse le dire. Même si toutes les, si Dieu a créé au départ des cellules vivantes capables de donner l'éléphant, la baleine, l'homme, etc., ces cellules vivantes devraient avoir le génome complet de toutes ces espèces qui en sortiront. Et puis, avec des disparitions de temps en temps, or, c'est pas du tout le cas.
Bon, mais alors, on a bien compris que vous n'étiez pas évolutionniste, mais comment peut-on ne pas être créationniste si on n'est pas évolutionniste?
Non, je suis créationniste, puisqu'il y a une création. Mais je ne sais pas du tout comment ça s'est fait. J'en ai aucune idée.
Mais non, mais si vous le saviez, vous seriez le bon Dieu.
Oui, je crois que qu'on gagnera beaucoup le jour où on reconnaîtra qu'on ne sait pas. Et vous parlez de Jean Rostand, son conte de fées, il l'a dit. N'empêche qu'il était évolutionniste. Parce qu'il ne voyait pas d'autres solutions et qu'il n'en avait pas d'autres. Et beaucoup de gens sont comme ça.
Oui, mais lui, il voyait un tétard se transformer en grenouille, parce que c'était ce principal de
sa... L'essentiel
de son
activité. Non, la parthénogenèse, c'est encore un autre problème.
C'est encore un problème, il voyait un tétard qui était un poisson, ni plus ni moins, en tout cas extérieurement, puis d'un seul coup, il avait des pattes.
Oui, ça, c'est la théorie desquelles qui sont, je crois, abandonnées depuis un siècle.
Moi, je suis réactionnaire. Parce que, d'ailleurs, à propos des théories desquelles...
Mais créationniste, non.
Un auditeur nous dit, votre travail courageux, vous dit... qu'il admire votre travail courageux et votre pensée. J'espère que vous faites une distinction entre la thèse de Darwin sur l'évolution et la dérive fantastique d'Herbert Spencer qui introduisit, alors c'est pas des cas contrairement à ce que je disais, qui introduisit toute une idéologie dénommée l'évolutionnisme. La thèse darwinienne qui n'a rien à voir avec l'évolutionnisme supérieur, Spencerien, se contente de situer dans l'immanence des séries de transformations biologiques. Je ne crois pas que Darwin lui-même était hostile à la jeunesse de l'homme. N'est-il pas enterré dans une cathédrale, dans la fameuse cathédrale de Londres?
Non, il y a une chose qui est tout à fait certaine, et c'est ce que Darwin a constaté en visitant les Galapagos. C'est qu'il y a des évolutions à l'intérieur des espèces.
Mais ça, c'est un fruit de l'endogamie, ça.
Non, c'est sélection. Par exemple, les éleveurs sélectionnent des espèces. Comme je le disais à vous-même l'autre jour, tous les chiens, que ce soit un Saint-Bernard ou votre Molosse ou un Chihuahua, sont une seule espèce. Mais avec des petites modifications génétiques qui ont transformé leur morphologie.
Avec des races différentes.
Seulement, ça n'a jamais donné un chat. Oui, la différence. Ça peut donner une espèce voisine, mais ça peut pas changer de catégorie. Quand les premières espèces vivantes apparaissent, enfin quand on les connaît, il y a 500 millions d'années à peu près, eh bien, on en connaît, je crois, 200 espèces qui apparaissent en même temps et qui appartiennent déjà à 6 embranchements différents. Par exemple, crustacés, mollusques, etc., méduses. Bon. Et on ne leur connaît aucun ancêtre commun. D'ailleurs, on voit mal l'ancêtre commun d'un crabe et d'une méduse. Alors c'est ça qui...
Oui, peut-être dans la famille, qui n'avait pas de mémoire et qui a oublié de remonter sa carapace.
Oui, mais à ce moment-là, oui, peut-être. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire que quand ces premiers fossiles apparaissent et avant, il n'y en a pas, c'est clair. Mmh. Quand ces premiers fossiles apparaissent, en principe, l'évolution est déjà presque faite, presque terminée. Ah, donc ça ne tient pas debout. Alors, et alors vous avez des gens, et même ici, je me souviens à l'ESCA, qui vous disent, ouais, mais puisqu'il y a des petites évolutions, beaucoup de petites évolutions, ça fait une grosse évolution. Ben pas du tout. Si vous avez beaucoup de preuves de petites évolutions, et aucune preuve qui vous permet de passer d'une petite à une autre, eh ben c'est négatif. Il n'y a aucune preuve d'une macro-évolution, aucune. Et je crois qu'il faut être clair, net et honnête. Vous dites, vous n'êtes pas créationniste. Si, il y a une création, comment s'est-elle fait? J'en sais rien. Et je pense que l'on ne le saura jamais vraiment.
Au bûcher.
C'est écrit dans la Genèse.
Oui, alors la Genèse, écoutez, ça, je sais que vous êtes très attaché au récit de la Genèse, et c'est pour ça que j'ai montré un peu de scepticisme à l'égard de ces braves protestants fondamentalistes américains. Le récit de la Genèse n'est pas à prendre au pied de la lettre. Saint Augustin le disait déjà, et saint Thomas d'Aquin aussi. Ils écrivaient que Moïse avait écrit dans la langue des gens de son temps. Et on peut très bien reconnaître, Bah, j'étais dans une réunion de l'Académie des sciences d'outre-mer, j'avais été invité.
Excusez-moi de vous couper une seconde, parce que comme on n'a pas la télévision, il faut que j'explique la gesticulation de Patrick en ce moment. Il est en train de sortir un briquet de sa poche en me montrant Daniel Raffard de Brielle et en me disant il faut le brûler, il est en train de proférer des propos
au bûcher.
Je
profite de cette interruption pour quand même féliciter nos téléphonistes qui prennent des messages d'une longueur incroyable et qui sont un tantinet délirants. Je vous laisse le lire.
Je vais
rendre hommage aux téléphonistes quand même.
Oui. Mais je persiste dans mon propos.
Ils sont des créatures.
Où est-ce que j'en étais
aussi.
Les récits de la Genèse sont apparentés à de vieilles légendes chaldéennes. Par exemple, le récit de Noé est très proche de la légende de Gilgamesh. Donc il y a indiscutablement, mais non, une influence. Mais vous auriez raconté le Big Bang aux braves Hébreux sous leur tente il y a 4000 ans.
Les habitants de Sodome, quand même compris de quoi on parlait quand on parlait de Big Bang.
Oui, alors quand.
Les voisins, disons.
Oui, les voisins. Alors quand il y a eu ce débat là-bas, il y a un brave académicien qui s'est mis à rigoler. Oui, la Genèse, oui, ben alors où est la parole de Dieu, la main de Dieu? Alors je me suis levé, j'ai eu du mal à ce qu'on me donne la parole d'ailleurs. Ben, c'est vrai que j'étais pas académicien non plus. J'ai dit, mais la parole de Dieu se trouve dans l'enseignement théologique qui est dans la Genèse et qui ne se trouve dans aucune légende chaldéenne. Voilà. C'est une manière imagée d'expliquer les choses à la portée des gens de l'époque. C'est ce qu'a dit saint Augustin, ce qu'a dit saint Thomas d'Aquin, et ce que je dis aussi, voyez. Je ne suis pas canonisé.
Vous flirtez quand même avec l'hérésie, parce que...
Non, pas du tout.
Ce que vous venez de dire, là, c'est très exactement... Là, les catholiques progressistes, qui ne sont d'ailleurs pas catholiques, bien sûr, l'ascension, c'était une image pour dire que le Christ...
Je n'ai pas parlé de l'ascension, que je sais.
Non, mais vous avez parlé de la Genèse.
Ce
sont des images pour dire...
Révolution dans la ménagerie.
Il faut pas tout mélanger, cher ami. Il faut pas tout mélanger. Non, les récits de la Genèse.
J'essaye de pousser dans ces dernières sont... pour qu'ils donnent toute la mesure.
Ont eu une influence considérable des récits babyloniens, chaldéens. C'est vrai.
Seulement, il y a en plus,
le fait que Dieu a créé lui-même l'homme, la femme, et qu'ils ont fait le péché originel, chose qu'il n'a pas dans les gens de
chaldéens. Si je ne craignais pas d'être foudroyé par la police du gnosticisme, enfin de l'antignose, je dirais que ça appartient au fond commun de l'humanité, c'est-à-dire à la tradition primordiale, la fameuse tradition primordiale.
Oui. J'ai toujours pensé que vous étiez gnostique.
Voilà, ça y est. Bon, ça a mieux fait de me taire.
Tu gnoses.
Je vois pas pourquoi Daniel échapperait au bûcher, parce que Serge, il y a quelques mois, le marquis et moi, vous nous y avez voué d'un geste, parce qu'on avait osé sourire quand vous vous êtes amené avec un article qui situait la création il y a 4223 ans. Et le marquis, lui, a été voué à la question extraordinaire parce qu'il s'est permis de demander à quelle heure. Alors, il me semble que le cas de Daniel est quand même plus grave que le nôtre. Donc il monte sur le bûcher avec nous.
Oui, mais moi je suis un ami.
Oui, lui c'est un ami, voilà.
Mais c'est pas juste.
Non, mais vous êtes
de la ménagerie.
Et demander à outre, c'est une justice.
Non, je voudrais lire un message parce que, voyez.
Et après, je voudrais lire les annonces.
Même si on est.
On
va avoir le temps. Même si c'est dit gentiment, ça montre que on n'est jamais parfaitement compris. Compliqué. Hein. Un auditeur me dit, une auditrice me dit très gentiment, croyez à toutes les légendes dorées et les vies de saints romancés que vous voulez, mais de grâce, exercez votre esprit critique, que nous apprécions tant chez le journaliste politique que vous êtes, lorsque vous lisez des comptes rendus de soi-disant expériences sur les singes. Mais je crois que quand j'ai raconté cette expérience, j'ai dit plusieurs fois, on nous dit que, on nous rapporte que, j'ai lu que, j'ai pas dit que c'était vérité, j'ai pas assisté à l'expérience. Moi, j'ai pas vu la Guenon dire sale homme.
Je trouve cette intervention très, très, très intéressante et pleine de bon sens. Si les gens veulent les réponses, c'est pas difficile. Ils lisent mon petit livre.
Oui, ah, ça, c'est évidemment. C'est...
Quel talent.
Mais il est très bien, retombe sur ses pieds.
Mais de temps qu'il a vu la pendule.
Alors, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, c'est pas une somme sur le créationnisme et l'évolutionnisme. C'est simplement un ouvrage sur la désinformation autour des origines de l'homme, mais que je vous conseille de lire pour une raison très simple, c'est que, pour une fois, on peut parler, comme toujours avec Daniel, on peut parler d'une façon légère de choses sérieuses, et on en sort meilleur. Meilleur parce qu'on s'est amusé, on a passé un bon moment, et on en sort plus intelligent. Et puis, il y a ces petits dessins. C'est quand même assez culotté de mettre des petits dessins. Comment voulez-vous, après, qu'on vous prenne absolument au sérieux, Daniel ?
Pourquoi voulez-vous qu'on prenne au sérieux ?
Alors, il dessine un sélacanthe, moins 200 millions d'années avant Jésus-Christ, avec des pattes, bien entendu, puisqu'il va évoluer en reptile.
Ce sont les pieds qui font l'homme.
Oui, c'est vrai, c'est le pied qui fait l'homme.
Oui, absolument.
En reptile, moins 100 millions d'années. 50 millions d'années après, il lui est venu du poil au reptile, il s'appelle un lémurien. 20 millions d'années plus tard, c'est un Dryopithecus, qui est déjà un singe. Mais à mon avis, j'ai pas mal dessiné, mais enfin mal en mécanique, on aurait dit mal branlé,
voilà.
Mal foutu. Voilà. Après, c'est l'Australopithecus qui me rappelle quelqu'un que j'ai beaucoup connu. Puis le Pithecanthropus gaioti. Alors ça, avec les lunettes,
oui, et
c'est le premier ancêtre de tous les archevêques, de tous les évêques. Puis le néandertalien, qui est quand même le Jean-Marc le Gaillotus, est avant le néandertalien dans votre dans votre vision personnelle de l'évolution. Puis après l'Homo sapiens, qui est un peu efféminé à mon goût,
il est grec,
une petite robe, il est grec, il est une petite robe. On s'étonne d'ailleurs que avec une tenue comme ça, ça ait pu continuer jusqu'à aboutir à l'Homo ecologicus, qui ressemble d'une façon étonnante au néandertalien.
Ce livre sera en vente, est déjà en vente à la librairie France Libre. Donc vous me permettez, Serge, de rappeler qu'elle vous recevra samedi à partir de 15h en compagnie de Jean-Pax Meffray, et qui nous écrit d'ailleurs, qui nous faxe ceci, puisqu'on a demandé les disques de Jean-Pax et des meilleurs, me souffle un auditeur. Je les enverrai à qui le demandera. Félicitations pour cette émission, signé Jean de Jaclot, le patron de France Libre. Alors je donne son numéro de téléphone, on a donné 20 fois son adresse, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Alors donc, demandez les disques de Jean-Pax Meffray au 01 43 25 36 67. Je suppose qu'on vous indiquera le tarif et qu'on vous les postera 01 43 25 36 67.
Je prends ta relève pour dire que moi je ne vais pas lire et je ne vais pas donner à M. de Beketch tous les messages qui sont arrivés pour dire le bonheur des auditeurs avoir entendu Jean-Pax Meffray, qui m'a laissé son site. J'en emmènerai un exemplaire pour Daniel, je vais en laisser un ici. Alors pour contacter Jean-Pax Meffray, achat de disques en dehors de ce que tu viens de dire, l'inviter à venir chanter à droite, à gauche, au milieu, enfin pour le contacter, son site, alors en majuscule jean-pax.com en minuscule.
Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas à Paris samedi, Daniel?
Samedi.
Ah ben non, vous venez dimanche.
Il a signé samedi dernier son
dimanche,
livre.
Si quelqu'un m'emmène.
M'emmène où ? À la 14e fête du livre.
J'aimerais bien lire les annonces de vos copains, parce qu'après.
Merci de péter mon enchaînement, monsieur.
Et la prochaine réunion chez la mère agitée, ben on y répondra plus tard. Alors c'est très important, les auditeurs ont redemandé plusieurs fois la date des émissions du commandant Guillaume avec Frère-Marie Algou sur Maurras. Alors si vous avez le temps de leur dire, ben je le prends. Alors notez les émissions du Crabe Tambour en 2001, le 30 avril et le 26 novembre, en 2002 les 7 et 28 janvier, 25 février, 6 mai, 28 octobre. Le jeudi 8 décembre à 19h45 dans les rues du 5e arrondissement, organisé par Saint-Nicolas du Chardonnay pour la célébration de l'Immaculée Conception, une procession, et on nous rappelle que c'est le 100e anniversaire des interdictions des processions à Paris. Une autre annonce, belle vente de charité au parloir du Colombier, 9 rue du Vieux Colombier, Paris 6e, métro Saint-Sulpice, dimanche 11 décembre, de 10h à 19h, et après j'en aurai fini, une dernière, pèlerinage à l'antique statue de Notre-Dame des Miracles dans l'église Saint-Nicolas du Vieux Mort. Ça aura lieu le samedi 10 décembre, je vous dis pas tout, on va aller plus vite. Vous téléphonez à 01 42 83 02 26 pour le pèlerinage à l'antique statue.
Vous pouvez redonner le téléphone, s'il vous plaît.
01 42 83 02 26, j'ai dit.
Bravo. 14e fête du livre de Renaissance catholique, dimanche 11 décembre 2005, de 11 à 18h, au domaine de Grand Maison à Villepreux. C'est à 20 km à l'ouest de Paris. Il y a des navettes à partir de la gare de Villepreux et de celle de Saint-Nom-la-Bretèche. Ce sera samedi.
Mais il n'y en a pas à partir de Versailles.
Non, il n'y en a plus à partir de Versailles. Ce sera donc dimanche, et il y aura 100 auteurs, dont Serge de Becquetch,
Daniel Ravard-de-Brienne,
Michel de Gégère, qui donne une conférence, comme Florence de Baudu, Jean-Marie, Jean Madiran, Jean Sévillia. Je rappelle une dernière fois que le Libre Journal 365 vient de sortir des presses. On peut se le procurer pour un carnet de timbre ou 5 euros. On peut s'abonner un an ou abonner quelqu'un pour un an. C'est un merveilleux cadeau de Noël. Pour 110 euros à SDB, 4 place 26, 75,10 Paris.
Bon, voilà. Et pour finir d'une façon sérieuse, un auditeur téléphone, renvoie un fax en disant à propos de la gueule. Non, hein. La Guenon avait-elle l'accent auvergnat? Charles Homme. Bon, c'est très amusant. Oui. Il serait bon de faire appel à des grands spécialistes pour traiter de ces problèmes, nous dit un auditeur. Mais il est d'accord avec Goffman. Daniel Ravard-de-Brienne ferait un très beau martyr.
C'est vrai.
Au bûcher.
Au bûcher. Un franc-maçon devient gnostique, c'est pas de l'évolution, ça, nous dit un auditeur. Ami de la gnose, bonsoir, termine-t-il. Est-ce vraiment les hommes qui ont exterminé les dodos à l'île Maurice? N'ayant pas fréquenté beaucoup les dodos, je n'ai pas d'informations particulières là-dessus.
Mais je le dodo est un... Oui, parce qu'ils les ont mangés.
Ah. Voilà. Et quelle idée de manger les dodos, on ferait mieux de dormir dessus. Et sur cette bonne parole...
J'en pas que c'est des meilleurs.
On a été brillants ce soir.
On a été paxés toute la soirée. Quoi. Ouais.
Merci de votre patience. Franck, je crois qu'il faut que nous rendions l'antenne, non? Oh, il nous reste 2 minutes.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Alors, il faut quand même dire que je vais répéter.
Les références du livre de Daniel.
Les références du livre. Voilà. Il s'appelle La désinformation autour des origines de l'homme, aux éditions L'Étoile du Berger, collection dirigée par Benoît Mancheron.
Alors, je précise que si les gens qui veulent l'acheter par correspondance écrivent à Folfer, F-O-L-F-E-R, tout simplement, 11 rue des Récollets, dans le 10e.
Folfer, F-O-L-F-E-R, oui, c'est joli.
Bon, on peut faire sans.
Oui, on peut faire sans, oui. Folfer, combien?
11
rue des Récollets.
C'est pas la gare de
Tiens, si un jour un auditeur peut nous dire ce que c'est qu'un colletage, on lui sera bien obligé. On lui saura bien de l'obligation.
Un décolletage.
Un décolletage, voilà.
On va regarder. Voilà.
Oui, mais c'était pas très clair.
Au bûcher.
Bonne semaine, que Dieu nous garde.